Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Coucou!
Coucou, mon amour!
Yeah.
L'épisode de cette semaine est une présentation de Manscaped!
C'est quoi Manscaped?
Manscaped, c'est une entreprise qui vend, entre autres, des tondeuses de quatrième génération.
Non, wow, je t'attends. Je t'arrête plutôt. Ils vendent des rasoirs à pénis.
Oui, mais tu
là, peux... va pas au John Deere à demander c'est quoi Manscaped. Ils vont te mettre dehors. Puis là, tu vas aller à l'asile, puis ça va être gênant pour tout le monde.
Tu peux faire ton gazon au John Deere, puis le Weed Eater, tu le fais au Manscaped.
J'aime ça.
Finition, sur le bord de la piscine, là.
J'aime ça. On a ça, code promo?
Code promo, couple 20, 20% de réduction, plus l'expédition gratuite.
Go!
Puis, fait à savoir, là, c'est... Il y a une lame en céramique de pointe pour éviter les accidents de rasage. Puis c'est une technologie qui s'appelle Skinscape Safe.
Oui, c'est très simple.
Il faut que je parle anglais dans ce maudit podcast-là. C'est un échec lamentable. Skin
mais
safe.
Mais t'es fédéraliste.
Trademark.
Viens du bord de la souveraineté. T'auras pas
tu
besoin.
Pas, j'essaie d'apprendre l'anglais. T'occuper. Essayer d'être les intégrer.
Elle est du bord du gars. Non, on peut pas dire ça va une pub. On va dire pareil. Elle est du bord du gars avec une robe de chambre qui a tiré.
Il avait peur.
Les Anglais se réveillent.
Il avait peur des femmes. OK. Maintenant,
Manscaped.
Tu peux avoir même peur quand tu dois te raser.
J'ai jamais eu peur.
T'as-tu peur? T'arrives dans la douche et t'es comme...
Moi, j'ai déjà pris du crystal meth, alors j'ai pas peur d'un rasoir pour pénis.
Donc, parfait. Obtenez un rabais de 20% et l'expédition gratuite avec le code promo couple 20 à manscaped.com.
Bon podcast. Amour, une grande nouvelle.
Oui.
Premièrement, t'es très sexy aujourd'hui.
T'es donc bien fin, merci.
Je suis très content d'être ça.
Le pire, c'est que je me suis dit, on va faire ça vite aujourd'hui, mais merci, t'es fin.
Sais-tu quoi?
Quoi?
Ça te fait bien le vite.
Oh!
C'est le pire compliment, ça. Une chance que t'es séduite, parce que c'est pas avec ça que je t'aurais eu.
Non, ça c'est pas l'argument le plus convaincant.
Non.
Mais non, mais je comprends, le fond est bon.
Le fond, c'est moi.
Oui, c'est ça.
Ah! Je m'en fous, faut pas dire ça, mais je vais dire pareil. Tu m'as dit hier le plus beau compliment que tu m'as jamais dit.
Ah oui, c'est vrai. Oui,
oui.
T'étais même ébranlé pendant oui. Plusieurs minutes. Vas-y.
Tu m'as dit que la seule raison pourquoi t'es avec moi, c'est pour le sexe.
Non, OK, non, j'ai pas dit ça comme ça.
Oui, t'as dit ça. Dans le taxi, le Uber, il était...
J'ai pas dit ça comme ça.
T'as dit ça comment?
C'est que tu m'as dit, j'ai aimé notre dernier rapport intime, j'ai aimé être
oui.
Près de toi.
Oui.
J'aime notre intimité. Ce qui est très beau à dire. Puis moi, j'ai dit, c'est ça la beauté du couple, c'est que tu t'engages à ce que justement. La prochaine fois qu'on vit ça, on le vit ensemble. Mais toi, t'as interprété ça. Mais c'est correct, là! La conclusion est pas mauvaise!
Non, j'ai dit, fait que ce que tu me dis, c'est que tu m'aimes juste pour le sexe. Tu m'as dit, ouais. Toi, tu m'aimes pourquoi? Puis j'ai dit, ben, on a les mêmes valeurs. Et t'as dit, des valeurs, je peux trouver ça n'importe qui. Le gars, l'autre bord, j'ai les mêmes valeurs. Lui aussi, là, c'était important de pas mentir, pis être de bonne humeur.
Tu m'avais dit aussi, pas hier, mais dans le même genre de contexte, t'étais comme. Tu sais, ensemble, ce qu'il y a de beau, c'est qu'on rit, tu sais. Puis j'étais comme, on rit avec plein de monde.
Ce qui est... En plus, je gagne ma vie de même.
C'est
là. Mais oui. Puis depuis que j'ai 11 ans, c'est comme ça que je me valorise. Oh, moi, je ris. N'importe qui.
C'est pas unique, ce qu'on a.
Mec, tout ce qui m'intéresse, c'est ton pénis d'une forme bizarre. J'ai notre fille qui nous écoute dans 15 ans. J'espère que YouTube va être fermé dans 15 ans pour pas qu'elle tombe
dessus. Mais ils ont comme un, ils appellent ça YouTube Kids, là. Quand c'est
pas on n'est pas sur YouTube Kids. On n'est pas sur YouTube Kids. Si vous êtes sur YouTube Kids puis on est là, appelez la police. Oh. On a une grande nouvelle.
Ben oui. Ben, on refait des représentations live de couples ouverts, notamment à le club, pardon, j'ai dit « ah, mais c'est haut », club 10-30 à Brossard en janvier 2022. Une super belle salle de spectacle. Je suis vraiment excitée d'aller là. Ils ont toujours des beaux shows, une belle programmation. Souvent, les premiers one-man shows, les shows en rodage d'humoristes que vous aimez passent par cette salle-là. Donc, puis là, c'est nous qui y va. Yeah!
S'il vous plaît, venez, parce que c'est grand.
Oui, alors, c'est la plus grosse salle.
Ça serait pas qu'elle fait... ça résonne.
Jusqu'à présent. Puis là, vu la levée des mesures sanitaires, en tout cas en partie de certaines mesures sanitaires, on peut remplir la salle. Let's go. C'est, ça sera pas en distanciation.
Ce que j'aurais préféré, moi. Je vois, c'est une affaire que j'aimais, moi. Du virus qui tue des millions de gens. C'est que ça fait
t'avais juste 60 billets à vendre, c'est moins stressant.
Je te rimais, moi. Yeah! Hey, 21 billets. En 4 mois, je peux vendre ça.
Les salles sont à capacité réduite. Parfait, oui. On va afficher complet plus vite.
Sold out! T'as vendu 17 billets, chérie. Veux-tu bien, Thomas?
Mais le 10-30, je suis pas allée souvent au 10-30, mais j'avais eu mon party de finissant de l'UQAM. On avait fait ça au 10-30.
T'as fait de l'amour ce soir-là?
Non, je pense, ben, pas à ma souvenance. Ben, j'étais en couple. J'étais en couple, mais fait que je suis revenue à la maison. Je sais pas, là, c'est pas marquant. Ben là, je veux dire, j'ai été 6 ans en couple avec ce chum-là. Je viens pas de la. C'est pas si bizarre, Tom, là.
Est-ce que tu te souviens de chacun de nos rapports?
Non.
Pourquoi non?
Ben non.
Moi, je
mais je pense au prochain, tu vois. Non, mais. Mais non, je me souviens qu'on avait fait le party là. Puis, dans le temps, mais je sais pas si c'est encore ouvert, mais il y avait le Radio Lounge de Brossard en haut du même immeuble où il y a, cette fois-ci, l'Étoile, qui est une autre salle de spectacle dans le même centre d'achat immense qui est le quartier 10-30. Puis, on avait soupé à un restaurant, je pense c'est asiatique, à l'entrée, à l'extérieur,
tu penses devant la télé.
Ben, c'est parce qu'il y a comme des soldats.
Tu penses c'est asiatique.
Je me souviens pas, c'est que nous, on était dans genre le club à côté.
T'es soit saoul, soit xénophobe. Ben, c'est
non,
lequel?
Tom, c'est juste qu'il y avait, des, y avait des statues de genre guerriers chinois, genre, devant le restaurant.
Genre.
Mais je sais pas,
genre,
non, c'est pour ça que j'ai dit asiatique. Jamais... Je sais pas exactement de où en Asie viennent les soldats de ce restaurant. C'est pas ça le point.
C'est pas, est-ce que c'est pas vietnamien? Parce que les soldats vietnamiens se cachent. C'est comme ça qu'ils sont mis à bout.
Oui,
la plus grosse armée de l'histoire de l'humanité.
Fait, ils se sont, ou sont peut-être cachés au 10-30 dans un restaurant.
Oui, parce qu'il y a plein de Vietnamiens à Brossard.
C'est vrai, il y a une communauté vietnamienne. Bon,
ouais.
En tout cas, je sais pas si.
Oui, ils appellent ça. Ben, c'est Mylène qui m'a dit ça, une Vietnamienne, qui appelle ça Viet-Tan.
Viet-Tan?
Ouais, eux, ils disent ça entre eux autres.
Ah!
Je pense. Sais-tu quoi? C'est de la propagande. Hier, yeah, bon. On est sur Internet, on a le droit, on est comme les frères Tadros.
Bon. Je voulais juste dire là, que quand j'ai fait le party là-bas.
Ouais, que tu te souviens pas de quelle origine était le restaurant.
Mais c'est pas ça le
point. Parce que tous les. Est-ce que je te juste répéter ce que tu as dit, vous pouvez reculer. Stéphanie a dit, je cite, tous les Asiatiques se ressemblent.
Non!
Alors, les différencier, c'est très difficile. Alors, moi, je dis les Chinois parce que, tu sais, quand tu sais pas de quoi tu parles en Asie, tu dis les Chinois. Hein?
Je sais pas ce qui est pire, dire les Chinois pour tous les gens d'origine asiatique. Tu vois? Miroir, ricochet!
Xénophobie vers moi.
Tout ça pour dire qu'à chaque fois que je passe devant ce resto-là, mais là, ça fait un bout, fait que je sais pas si c'est encore là, mais pendant plusieurs années, il y avait
un grand soldat.
Mais nous, on était sur le party là, quand on était là, puis on sortait pour aller fumer. Puis à chaque fois qu'on sortait pour aller fumer, les statues chillaient avec nous, tu comprends? Fait que tout ça pour dire que j'ai donné beaucoup
des champignons?
De bisous.
Tu des bisous.
Puis, vu que le Radio Lounge est à côté, puis que le Supper Club, je pense que je ne suis pas la seule à avoir déjà donné des bisous aux statues du restaurant.
C'est méchant ce que je vais dire, OK? Puis je sais que t'es la mère de mon enfant.
Bon.
J'en reviens pas que tu...
J'ai déjà embrassé quelqu'un d'autre.
Non, ça c'est correct. Mais tu te souviens pas de l'origine ethnique, ni du visage d'une personne avec qui t'as un rapport sexuel.
C'est pas un rapport sexuel. C'est un moment intime, j'en conviens.
Mais c'est pas un rapport
sexuel. Mais, regarde, là, je connais la nature de mes échanges avec cette statue-là, OK? C'est un petit bec, OK? Un petit bec. Juste un petit bec pour une photo. On prend une photo, un petit bec. C'est tout. C'est tout.
Est-ce que tu considères que c'est de la pornographie?
C'est
chaud. Vu que c'était la pornographie, puis c'était un bébé.
Non, je pense pas. Non. C'est
une porn star, mon amour.
Arrête, on a des photos de nous qui donnent un bec. Les couples ont ça. Des
bonnes, un couple, c'est une
star! Des photos de mariage! Des photos de mariage! Je sais quoi!
Les couples! Hey, soudainement, la statue
là,
d'origine
Pokémon. Tu ris tout le temps de mes ex!
Ils ont pris. Bon. Oh.
Fait que venez nous voir à Brossard.
Ouais, venez nous voir à Brossard. Peut-être que la statue va être là et que Steph va blesser pour la statue. D'une statue d'un homme asiatique d'une origine dont on se rappelle pas.
Sinon, on veut aussi parler d'un autre élément. On a de la bière Job de bras.
Yeah!
C'est une émission que vous connaissez sans doute, qui est rendue à sa 11e saison à la télé. C'est en lien avec notre invité d'aujourd'hui qu'on ne dira pas encore le nom si vous ne l'avez pas deviné.
Moi, j'étais en dessous.
Non, mais tu sais, d'un coup que les gens sont aveugles. Il y a des gens aveugles, Tom. Tu les oublies tout le temps. Moi, je suis super sensible à ça, OK?
Comme moi, je suis sensible aux communautés ethniques et toi, t'es sensible aux handicapés.
Oui, c'est ça. Chacun, on
défend. C'est ironique parce que tu travailles avec Mike Ward.
J'essaie de le changer par l'intérieur.
C'est ça, ouais. C'est du monde, les handicapés, Mike. Et toi, tu te moques d'eux? C'est bien vilain. C'est bien vilain. Nous, on se moque de personne. Quoi qu'on se moque aussi des handicapés, on se moque de François Lambert. C'est très méchant pour les handicapés, ça. Il y a beaucoup d'handicapés qui vont dire « Hey, associe-nous pas avec Lambert. Associe-nous pas avec Lambert. »
Fait que la bière Job de bras, honnêtement, une émission qui perdure parce que c'est vraiment une excellente émission sur les travailleurs. Et c'est
qu'on
une bière.
On n'est pas, hein?
C'est ça.
Ce qu'on est vraiment pas.
Nous, on est des intellectuels.
Non plus.
Bon.
On est quoi, nous? On est deux nonos.
Ben oui.
Cochons.
OK. Une bière power rafraîchissante que notre invité nous a dit parce qu'on l'a pas encore bu, mais là, on en a. Fait qu'on va pouvoir y goûter.
C'est tellement cochonne.
Quoi? Oui. C'est du ASMR. Glou, 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 glou. Ah!
C'est fini, Kaza. On parle d'alcool, on parle de...
Est-ce qu'on accueille notre invité?
Bien sûr!
Mesdames et messieurs, Patrick Groulx!
Hey! Ah, ça fait du bien. Je savais pas si j'avais le droit de parler.
Non.
Fait que je riais par en dedans. J'ai mal aux joues. Moi, quand je ris fort. Fait que...
Fais-tu la différence en... Est-ce que tu reconnais les gens que t'embrassent à tes balles dans un...
Ça dépend. Normalement, oui. Mais les statues, non.
Les statues,
on se souvient moins des statues.
C'est ça.
Ouais.
C'est peut-être, c'est des objets. On les traite comme des objets. T'es épouvantable.
Mais je la vois, cette statue-là.
Oui,
ben oui,
tu sais de quoi je parle.
Oui, complètement.
T'es allé
encore
souvent
là,
à l'étoile. Ben, c'est ça. Mais là, ouais, vu que ça fait un petit bout, je peux aller. J'ai pas pris la chance. Mais je pense.
Si vous voulez goûter à Steph, Frenchie sa statue.
Imagine, elle devient usée, ses lèvres. Tout le monde
c'est pas un trend.
Donne un petit bisou à la statue. Ah, oh, Patrick, merci d'être avec nous.
Hey, je suis assez content. Je vous l'ai dit avant, je suis un fan.
T'es fin.
Ouais, vraiment, je trouve ça vraiment cool.
Merci.
Ouais, c'est très honnête comme podcast, puis je trouve que ça manque d'honnêteté dans la vie souvent.
Mm.
Puis c'est ça, fait que j'aime bien ça.
T'es fin,
merci. Vous êtes touchant, vous êtes drôle, plein. Ouais, c'est vraiment cool. Merci de m'inviter, d'ailleurs.
Ben là, écoute, bien content d'être là. Je t'en prie, je te le disais, j'étais aussi avant d'entrer en onde, mais la dernière fois que je t'ai vu, en fait, la première fois que je t'ai vu sur scène, c'est Pat Groulx et c'est Bob Blanc à Laval.
Oui.
Puis là, on essayait de calculer ça avec quoi, comme
ouais,
10,
hey, ça, 15 c'est, 15 je pense,
ans?
C'était 2006 à peu près, cette tournée-là, dans ce coin-là.
Sans doute.
Ça, c'est quand je faisais mon show d'humour au complet.
Oui.
Parce que je voulais pas mélanger les deux, l'humour et la musique, parce que moi, c'était mon trip, la musique. Je voulais pas imposer ça au monde, qu'à chaque numéro, il y a une hostie de tonne plate qu'on n'a pas envie d'entendre. Fait que j'avais dit, je vais faire mon show d'humour au complet. Puis après ça, ben il y a le band qui apparaissait sur scène. Puis là, on faisait un party d'à peu près une heure.
Mm-hmm. Ouais, cool.
Ouais.
Ouais, c'était comme de l'extra. Puis au début, c'était 50 minutes de Bob Blanc. Puis après ça, les dernières dates, on faisait 1h45, 2h. C'était complètement fou. Le party pognait dans la salle.
Oui. Mais c'est pour ça que je m'en souviens autant.
Ouais.
Parce que aussi, c'était différent. C'était excessivement rare qu'on voyait ce mélange-là à l'époque, en tout cas. Fait que le party pognait bien raide, là. Quand
ah non, c'était le fun. J'avais fait capoter Joseph, mon metteur en scène. Puis
Saint-Gelais.
Joseph Saint-Gelais. Puis Benjamin aussi, Ben Faneuf, qui est gérant producteur. Puis parce que dans mon show, le concept, je voulais tellement pas imposer ça aux fans, mettons, d'humour, que je faisais mon show. Puis à la fin de mon show, je disais aux gens, bon, si vous avez envie de rester, vous restez. Si vous avez envie de partir, partez. Si mm-hmm. vous travaillez demain mm-hmm. ou pour X raisons, mais là, on fait le party avec vous autres. J'ai un ban en arrière. Je reviens dans 45 secondes. Fait que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mm. Fait que moi, c'est important pour moi de le faire. Mm-hmm. Puis après ça, je revenais avec ma guide. Je commençais tout seul. Puis c'était cool, l'illusion, si on veut. Là. Je ne suis pas un grand magicien, mais j'étais seul sur scène avec un éclairage très sobre pendant à peu près 1h20. Mon show d'humour durait. Puis après ça, on fermait le rideau. J'allais faire cette petite présentation-là. Je commençais une toune qui s'appelle Papa, tout seul à la guitare. Le rideau ouvrait, puis on avait full band sur scène.
Wow. Ouais. C'est qui les instruments avec toi?
Les musiciens.
Ben, les deux, les musiciens puis les instruments.
À l'époque, il y avait Nick qui était là, qui était guitariste. Il y avait Cocotte à la basse. Au drum, ben, ça a toujours été Max. Nous autres, on a changé un peu. Il y a eu cette tournée-là. Puis après ça, le band a changé un peu. Grégoire Pinchot.
Cool.
Qui est là depuis le début. Fait que là, maintenant, on existe encore. D'ailleurs, on a fait un album pendant la pandémie. Wow. On n'avait pas joué ensemble depuis presque 10 ans. Puis wow. À chaque fois qu'on se voyait, on se dit, on va faire un disque. Et là, on l'a fait pendant la pandémie. Mais là, c'est Grégoire Pinchot, Maxime Gaudreau, à la basse, je suis bien niaiseux, j'ai comme Andrea Bélanger, okay. Parce qu'on a eu deux bassistes aussi, et c'est ça, Sébastien Daigle aussi, guitariste, vraiment trippant, ouais. Mais c'est un show qui était vraiment super le fun, c'était les deux affaires que j'aimais le plus, l'humour, le party, puis ça a vraiment chiré, pour vrai, on a eu des soirées mémorables, puis à un moment donné, à la fin de cette tournée-là, là, on a commencé à avoir des demandes juste pour le band, mm-hmm. pour faire des festivals, des cool. festivals country, western, des rodéos, parce que les bas blancs, c'est du country, folk, rock, je sais pas comment appeler ça, bluegrass. Fait que la musique de party, fait qu'on a fait ça. Après, on a eu 70 dates à peu près de juste les bas blancs, juste le party. Fait que quand on s'était vus, à ce moment-là, c'était ouais. ce show-là.
Oui, ouais. Je m'en souviens très bien, vraiment.
C'était un bon feeling aussi pour un humoriste, tu sais, nous autres, une grosse salle, c'est quoi? C'est Wilfrid Pelletier, c'est ouais. 3000 personnes, mais de se retrouver en festival avec un band devant 10 000, 20 000, 100 000 personnes des fois, on a fait des shows, t'as des gros shows un peu partout au Québec, ouais. de Saint-Jean, Montréal, Québec, les Montgolfières, ouais. nous autres, on a fait les Francopholies de Montréal, fait qu'on s'est promené partout, puis à un moment donné, t'arrives dans un rodéo, dans une ville, t'as jamais entendu parler de cette ville-là, sont comme, peut-être pas 30, mais t'as des festivals, sont 5, 7, 10 000 personnes,
ouais.
mais ça sort d'où ce monde-là, fait que c'est un autre monde, c'est un monde de party. Moi, je me souviens, les premiers rodéos qu'on faisait, on était en show ce soir-là, puis on se déplaçait, puis quand on arrivait, il y avait les espèces de VR
oui.
un peu partout, oui. du monde qui se promène à cheval. C'est comme une communauté incroyable, les enfants qui jouent partout ensemble, le rodéo l'après-midi, puis là, le gros show de musique le soir, puis c'est vivant, hein? C'est
capable. Ah oui, mais c'est ça, c'est parce que ça me rappelle des souvenirs. Je suis allé à Saint-Tite une année avec des amis.
Mon amour, explique Saint-Tite. Non, elle était là à Saint-Tite.
C'était à l'époque encore où je travaillais à la salle André Mathieu. Puis on avait un party d'employés. Puis là, un de nos amis techniciens à la salle là-bas, qui travaille encore là-bas d'ailleurs, salut Charles.
Salut Charles.
Il nous parle de Saint-Tite. Salut. Yes, salut. Il nous parle de Saint-Tite. Puis là, mais nous, on était un peu avancés dans le 5 à 7 cocktail. Fait que moi, puis mes amis, on est comme ah non, on n'est jamais allé. Dis-moi, je m'en vais là demain. Matin 6h ou genre même 5. Il partait à l'aurore là, pour être sûr d'arriver. Attends là-bas, puis tout. Puis on fait on y va avec vous autres. On y va. Les trois filles. Mais on s'habille country, puis tout. Let's go.
T'avais du linge country chez
ben,
vous.
Ben genre,
là.
Chemise non, carottée. Mais... Oh, ouais. Ish,
non, je t'explique. On y va. Hein? Parce que quand t'es une fille, pour elle, du linge country, c'était du linge country chez un twin. Ouais. Tout est country, c'est tu prends un truc carotté puis tu ouais. le montes ici.
Tu remets tes seins de même. Je suis country.
Tu serres une nappe.
Ben oui, tu serres une nappe entre tes deux boules. Tu déchires tes jeans. Son amie, là, Cathy, on va la nommer, s'est dit, oh, moi, je suis country. Je prends les shorts les plus shorts de l'histoire de l'humanité en jeans puis on va à Saint-Tite. Fait que c'était trois filles,
oui.
lendemain de veille, qui pourraient jouer dans un film de Pégase
dans demain matin.
C'était, on était les Charlie's Angels de Saint-Tite, je pense.
Ouais.
Et avec le gars le plus motivé du monde.
Mais lui, il était super content de chiller avec nous autres.
Ouais. Oui, lui, c'est son meilleur festival Saint-Tite de tous les temps.
Non, mais Charles, c'est vraiment un bon ami, puis il est vraiment gentil. Fait que on,
il y a toutes les deux qui a flashé sur une mascotte?
Ah, ben non, mais c'est moi qui ai une photo avec la mascotte.
Oui, puis super érotique.
Ben arrête!
Oui, après
juste un, c'était juste un petit bec!
C'était juste un petit bec!
Non, non, c'est
photo!
Tu sais, l'homme éveille, puis tu sais, à 20 ans, elle découvre sa force sexuelle. Fait après la photo qu'elle a avec la mascotte, c'est-tu Ricky Martin?
Ben non,
ou
non.
Une mascotte?
Tu sais, la mascotte qui est elle-même? Puis elle.
C'est pas cochonne. Le gars de la mascotte aurait dû faire. C'est qu'elle fait, elle.
C'est tout,
elle
tout, tout à fait.
À 8 h le matin.
À ben sent la jeun. Boisson.
Oh, mais
tu sais, mais ça, comment t'as trouvé l'ambiance?
Moi, j'ai adoré ça.
Les gens sont les super
VR.
Moi, là-bas.
Un océan de VR. Oh, les gens, ouais. Ils se déplacent avec ça pour à perte de vue. On en a visité parce que, tu sais, il y a des tu peux magasiner ton VR.
C'est vraiment
la communauté de VR est là. Mais c'est la première fois que je visitais ces genres d'autobus de voyage personnel. Je trouvais ça extraordinaire. En tout cas, j'ai découvert plein d'affaires que je connaissais pas. On a fait de la danse en ligne l'après-midi. On a mangé. Les gens, ils décorent. Parce que la ville devient festival. Les gens décorent les devants de leur maison. Tu veux faire du taureau électrique, c'est sur le terrain de Patrick. Puis si tu veux manger du blé d'Inde, c'est chez Thomas. Puis... Oh, non,
c'est une communauté. Imagine plein de monde qu'à l'année... Il y en a de Montréal là, qui vont en Saint-Tite puis tout ça, puis qui vont faire de l'équitation la fin de semaine, qui trippent, mettons, cowboy entre guillemets, puis qui aiment la musique country, mais c'est tout le monde un peu éparpillé partout au Québec. Et là, tout à coup, c'est une communauté, là. T'es avec plein de monde qui aime exactement ce que t'aimes.
C'est un grandeur nature country.
C'est incroyable.
Oui.
Puis avant d'avoir vu ça, là, tu peux même pas t'imaginer que ça existe. Moi, je me souviens encore d'être arrivé là-bas, là, de voir du monde à cheval se promener d'un VR à l'autre, puis boire de la bière à midi, puis d'aller se jaser, puis comme je disais tantôt, les kids qui jouent ensemble, puis tu sais, s'il y a quelque chose de bien le fun là-dedans, puis de bien weird à 3 heures du matin. Tout le monde est bien chaud, puis...
Le rodéo aussi, c'est vraiment impressionnant.
Ah, moi, j'ai fait ça à Job de bras, d'ailleurs.
Tu l'as participé?
Clown de rodéo. Moi, on a fait 226 épisodes de Job de bras.
Oh my God.
Puis c'est ça. Là, tu disais tantôt, là, c'est terminé, mais on a l'impression que c'est encore en onde parce qu'il y a des reprises.
Ah.
Mais ça fait à peu près 5 ans là, qu'il n'y a pas eu de nouveaux épisodes. Mais quand même, ça
roule encore. C'est ça, exact. On peut le suivre.
Ouais. Fait que c'est ça. Donc, je faisais plein de métiers, dont clown de rodéo.
T'as-tu extrêmement peur?
Ben, j'ai eu peur.
C'est quoi un clown de rodéo?
Mais clown de rodéo, c'est pour distraire, mettons, le bœuf enragé qui veut te corner d'en face. Fait que toi, ta job, c'est de protéger le cowboy, la cowgirl. Fait que tu fais le clown devant le taureau, finalement, puis tu le sors. Sauf que lui, quand il veut t'attaquer, il y a des barils. Puis tu te caches dans un baril. Fait que le principe de base, c'est ça. Fait que moi, j'arrive là-bas, puis moi, à Job de bras, je faisais tous les métiers qu'on me proposait. Ouais. Fait que je savais comment il s'appelait, Gaspé. Que je salue d'ailleurs.
On salue Gaspé.
Un clown de rodéo très connu au Québec. Et là, il me raconte, Gaspé, que la semaine d'avant, il s'est fait corner dans un baril.
Ouf.
Puis, il a revolé, il a passé par-dessus la clôture à peu près une clôture de 7 pieds, mettons. Lui, là, il mesure, si je me souviens bien, à peu près 6 pieds 1. Il doit peser 240 livres dans ce temps-là. Et là, moi, je suis 5 pieds 7. 180 quelques livres. Et là, je me dis, si lui, il a revolé à 7 pieds, il va faire quoi avec moi, tu sais? Fait qu'il me raconte ça, mais il dit, il n'y a pas de danger, on va être là avec toi. Je dis, voyons.
Il n'y a pas de danger, mais moi.
Mais moi, j'ai dit, mais toi, t'as fait de ton mieux la dernière fois que c'est arrivé. Il dit, oui. Je dis, fait que
puis un peu plus,
il
n'y
a pas de
toi.
Danger. Ben oui, tu sais. Et là, fait que là, écoute, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent. Là, ils font entrer les taureaux, puis tout ça, puis on s'occupe de tout ça avec eux autres. Puis déjà, d'être l'autre bord de la clôture avec ces grosses bêtes-là qui rentrent, tu pognes de quoi, là?
Ils sont immenses. Ils sont en colère.
Ils sont pas de bonne humeur, non. Fait que là, on fait ça. Puis ensuite, je sais pas pourquoi, je sais pas s'ils ont fait exprès d'ailleurs, mais ils ont comme diffusé l'après-midi, avant le show du soir, le rodéo, des espèces de vidéos de clowns de rodéo qui virent mal, genre aux États-Unis. Et là, j'en ai pour une demi-heure de ça, de monde qui se font corner dans le cul, garocher l'autre bord d'une clôture, rentrer dans un mur. Écoute, c'était incroyable. Et là, j'étais stressé. Et là, j'étais nerveux. Fait que j'écoute mon costume de clown en plus. Ils m'ont habillé, le maquillage, tout ça.
C'était quoi?
Eh bien, c'était une espèce d'écoute. Faudrait que j'ai pas, j'essaie de te décrire. Gros saut de clown, guenille, un peu tout croche, là. Tu sais, je. T'es en clown
pas,
de rodéo.
Tu bouges même pas bien en plus là-dedans.
Ben, c'était pas payé quand même, mais c'est ça, on dirait que c'est.
C'est pas des running shoes ou des shorts.
Non, exact. Ouais, ouais. Tu cours pas le 100 mètres avec ça, là. J'ai jamais vu personne courir le 100 mètres avec ça.
Bowl, il est pas de même.
Ben non. Puis là, on avait des pratiques l'après-midi. Oh. Comment rentrer dans le baril.
Oh mon Dieu.
Puis de juste te tenir dans le baril aussi. Puis tout ça. Puis.
Cogner le baril.
Ben non, mais complètement.
Il y a des poignées en dedans. Tu peux te tenir là-dedans. Puis. Fait que là, il me présente l'après-midi. Mesdames, messieurs, un invité spécial pour le job de bras, Patrick Grou. Mais là. Tu sais, tout le monde est content de me voir et tout le monde se dit « Oh yeah, on va voir Pat Grou voler, esti. »
Oui, parce que moi, je suis dans le strat, j'ai deux gages, il est pas capable.
Ben oui.
Il est pas capable.
Ah non, c'est fou, raide. Ben oui. Fait que là, le show commence, ça, et je fais ce que j'ai à faire. Taureau est là, à un moment donné, je rentre dans le baril et on voit à l'émission, là, le taureau qui donne un petit coup de cul sur le baril. Puis moi, je suis comme ça. Je veux pas sortir, puis à un moment donné, on voit à l'émission, je veux juste me lever à la tête, voir où ce qui est rendu. Mais ça a été toute une expérience, mettons. Puis à la fin de la soirée, il jouait au poker extrême. Ça, là, c'est l'affaire la plus fucking weird et courageuse en même temps que j'ai vu de ma vie.
C'est quoi le
mais là, on
extrême?
S'entend, les gens sont complètement torchés pour faire ça. Là. Ils ont une genre de table à poker et là, ils prennent des volontaires, mettons, puis ils peuvent gagner du cash. Là. Je me souviens plus combien. Là. Je pense que c'est 7 piastres. Okay. Non. Je me souviens pas c'est combien, mais mettons,
une cagnotte
on va espérer 1000 au moins. Okay. Et là, il y a des volontaires, il y a une table à poker en plein milieu. Là. Et là, les gens s'assoient et ils font sortir... le taureau. Non, je te le dis, là. Ils sont pas padés, rien. Il y a pas de casse de hockey, il y a fuck all, là. Toi pis moi, on est sur la brosse, on va dire, ah ouais, t'es pas game d'y aller. Pis on y va, on s'assoit là. Et là, le taureau arrive, mais là, c'est le dernier à se lever qui gagne.
Oh mon Dieu.
Mais là, il y en a, quand ils le voient, ils se pensent bien tough d'un gradin, mais là, une c'est fois qu'ils voient le taureau commence à capoter un peu, fait que là, ils sont assis, ils le voient, ils se lèvent, mais il y en a d'autres qui restent jusqu'à ce qu'ils se fassent corner, là. Fait que non, c'est quelque chose. Je sais pas comment ils appellent ça, ce sport-là.
Ce qui est fou là-dedans, c'est que, si je comprends bien les règlements, c'est le dernier qui se lève. Fait que si t'es assis, t'es corné, puis quelqu'un d'autre reste assis, t'es juste corné, gratis.
C'est ça. Exactement.
C'est ça, c'est le risque.
Mais je vous le dis, le courage que ça prend, ou faut être
intoxiqué. Ou le taux d'alcoolémie.
C'est le taux d'alcool. Ça se peut pas que quelqu'un de stable et à jeun... va s'asseoir là.
On va aller jouer aux cartes. Où est-ce que le taureau?
Tu sais, j'ai jugé un peu, puis mais je me disais, moi, ça brosse. T'sais.
C'est le genre.
C'est le genre d'affaires que je vais faire.
Ouais, on se rappelle que t'as déjà eu un. T'as déjà été en manteau au mois de juillet.
Oui, par contre, c'est ça. Ben, c'est ça. J'en ai encore une fois, on réfère à avant le podcast, mais je connais ta sœur Sylviane. Quand je travaillais, encore une fois, à la salle André Mathieu. Quand j'ai commencé à travailler en agence de spectacle, on a un congrès annuel d'agents de spectacle et de salles de spectacle. Je sais que c'est pas glamour, mais sachez qu'on a des congrès comme tout le monde, finalement, dans cette industrie. Et
Rideau.
Ça s'appelle Rideau, ça se passe à Québec.
Oui, parce que c'est Rideau, c'est les arts.
Ils ont fait un... Oui, c'est ça. Ils ont fait un acronyme qui fit avec le... Quand même.
Vous êtes bon.
On est créatif. Oui, c'est artistique. Non, c'est ça, Sylviane. Et elle travaillait pour un diffuseur en Ontario, franco-ontarien. Puis ça, je te disais, à chaque fois qu'elle venait à notre table, elle est adorable. Elle est tellement gentille. Puis elle travaillait aussi avec un gars qui s'appelle Patrick Bourbonnais. Les deux, quand ils arrivaient à la table, c'était tout le temps tellement un plaisir. Les accueillir, ils sont fins puis ils sont drôles.
Patrick Bourbonnais c'est un humoriste. En tout cas, il était dans mon premier groupe d'humour.
Que t'as parti, genre au cégep, genre?
J'avais 19 ans.
OK.
Fait que moi, j'ai jamais fait... En fait, je suis en 13e année, si on veut. Okay. Après ma 13e année.
Moi, j'ai mon cours de Ontario francophone avec Catherine.
Avec Catherine, c'est ça.
Avec Catherine, ouais. T'as tout expliqué, la 7e, 8e année, l'école intermédiaire. Fait que nous autres, on fait la 13e année, c'est ce qu'on appelle un pré-universitaire. Donc, on passe directement à l'université après. Fait qu'il n'y a pas de cégep, mais on est à peu près dans les mêmes âges, je pense. Fait que nous autres, c'était soit... l'université, le collège, où on s'essaye en humour. Fait que moi, ça a commencé comme ça, dans un groupe d'humour qui s'appelait les Catalogues.
Okay.
Parce qu'on était quatre, avec le 4 Trédignon à Log.
J'adore.
Avec un S.
On vient de rire de l'acronyme Rideau, mais ça, c'est...
un des pires noms.
Au-dessus.
Mais dans ce temps-là, à 19 ans, on disait qu'on pouvait nous commander par catalogue. On était quatre, monologue, dialogue. J'arrête, là. Non.
C'est bon.
Oui, c'est ça.
C'est bon.
Mais, c'est ça.
On commence.
Oui. On commence, puis on a fait ça pendant... moi, on a été ensemble pendant 4 ans.
Okay.
Déménagé à Montréal, etc. Mais Boubou,
ouais.
Bourbonnais,
ouais.
Qui est un des gars... Il y a des gens comme ça dans la vie qu'on voit, qu'on côtoie, qui ont un talent énorme. Et pour X raisons, choisissent un moment donné de faire autre chose. Mm-hmm. Patrick, c'était ça. Moi, c'était mon humoriste préféré au monde. Je veux dire... Les deux autres aussi, là, ils étaient drôles. Mais Boubou, il a toujours eu quelque chose de spécial. Il était extrêmement drôle, ce gars-là.
Ouais.
Puis quand on s'est séparés, ben il a comme arrêté de faire ça. Puis ça m'a fait bien de la peine parce que il avait un grand talent. Mais comme on dit souvent, c'est ça. Ça prend plus que le talent. Ça prend plein d'autres affaires aussi pour réussir. Fait que, mais c'est drôle que tu connaisses Boubou.
Oui,
ça le fun.
Mais comme je te dis, en plus, il est encore très, très, très drôle à ce jour.
Ouais. Puis, c'est un bon public, quelqu'un qui aime rire. Puis,
oui.
Dans le milieu de l'humour, il y a plein de gens hilarants qui sont juste pas à l'avant-scène.
Mm-hmm.
Oui, exact.
Tu sais, je pense aux deux techs de Louis-José qui ont la salle Les Loups. Steph et Pierre-Luc sont hilarants.
C'est incroyable.
Hilarants. Ils sont drôles.
Puis ils ont même le delivery de Pierre-Luc Bocage.
Incroyable.
C'est hallucinant.
Mais parle-nous de ta relation avec ta sœur Sylviane. On la voyait dans le Gros Luxe dans le temps. Gros Luxe, faut que je le dise correctement.
C'est ça, ta relation, c'est ça.
Ben non, mais je veux dire relation, mais vous avez une relation.
C'est une relation sexuelle aussi.
C'est juste un petit bec. Juste un petit bec. Prenez des photos à Noël, c'est juste un petit bec.
Qui est contre l'amour?
Non, mais Sylviane et moi, à un moment donné, dans un party, plein d'humoristes étaient là, dont Courtemanche. Et à un moment donné, un soir, on se met à raconter à Courtemanche. Tu sais, ma sœur, je dis, puis bien sérieux, puis ma sœur embarque dans mes niaiseries, puis elle me surprend à chaque fois. Était tellement sérieux, je dis genre, je vais faire un gag, on va rire tout de suite, puis c'est tout.
Mm-hmm.
Puis je dis à Michel, je dis, ouais, ma sœur, on a toujours été très proches, puis tout ça, puis... tu sais, je dis, c'est... Ah, je peux pas te dire ça. Là, Michel, voyons, dis-le, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non, pour vrai, ça, tu vas nous juger, puis... Et là, déjà, ma sœur a dit, bon, je pense qu'il s'en va là, tu sais. Michel dit, mais non, mais dis-le, c'est poche, c'est fatigant. Et là, je la niaise de même pendant 2 minutes, puis je dis à Sylviane, puis Sylviane, elle me regarde, elle dit, non, non. Puis elle est bien sérieuse et elle embarque dans le jeu. Je dis, puis là, finalement, je finis par y dire, c'est la première, c'est ma première. Là, Michel, regarde ma soeur, fait, ta première quoi, tu sais? Ben, la première personne que j'ai embrassée, avec qui j'ai, c'est la première fille avec qui j'ai fait l'amour, tu sais. Et Michel, tu connaissais un peu Michel, qui est un excellent public. Mais là, il embarque, ma sœur est tellement bonne, puis elle dit, puis elle me fait une face, genre, pourquoi tu dis ça? Fait que lui, il écoute, puis il ose pas rire, mais il a envie de rire, je le vois un peu dans son œil. Il reste bien sérieux, puis je dis, tu sais, on n'en parle jamais, je pense que t'es la première personne. Mais il dit, mais là, c'est... OK, puis tu sais, il sait pas quoi dire, il essaie d'embarquer là-dedans, tu sais, mais on l'a pas fait souvent, là, je veux dire... Et là, on embarque dans cette histoire-là. Et quand finalement, on lui a dit, Michel, c'est une joke.
Oh, écoute, mon Dieu.
J'ai rarement vu Michel rire de même. Mais tu sais, un rire qui te fait du bien, que tu fais juste évacuer le stress que tu gardes depuis à peu près 20 minutes.
Il n'y a rien mieux que dans la vie de faire semblant qu'on est ouvert d'esprit.
Ah oui, j'adore ça.
Ah oui, ben oui. L'inceste.
Ah oui.
Ah, c'est capable. Super.
Ben, oui. Si vous vous aimez, c'est correct.
Oui. Qui va me juger?
Ça s'est fait dans le respect.
Oui.
Tout le monde est content, moi je suis content.
Oui, oh, c'est ça. Mais j'ai une super belle... mais c'est pas vrai tout ça. J'ai une très belle relation avec ma sœur.
Vous connectez intellectuellement, vous connectez artistiquement, ça paraît. Là.
Oui, puis il y a des frères et sœurs, ça marche pas. Ils vont chicaner. Ils vont...
avec ton frère. Non.
Ça marche.
C'est comme ça, toi?
Mais non.
Ça,
c'est toi avec mon frère. Ouais, dans
toi, tu es des frères et sœurs, d'ailleurs?
Je suis enfant unique.
Enfant unique,
enfant unique. J'adore le monde. Parce que c'est l'autre seul être enfant unique.
Ouais. C'est clair que c'est long. C'est mais moi, tu vois qu'il y a eu une sœur. On était très proches, nous autres. On fait plein de niaiseries ensemble. De m'imaginer sans ma sœur, c'est bien difficile, je trouve.
Mm-hmm. C'est comme s'imaginer qu'un frère.
Moi, je te dirais, je le dis un peu à la blague en show, mais nous autres, ma blonde, mon ex, en fait, la mère de mes enfants et moi, on a eu ma fille, Raphaël. ça a été quand même assez difficile. Là. Faisait pas ses nuits, tout ça, pour un an. Là. Et moi, j'en voulais 6. Et après elle, j'aurais peut-être arrêté là même, je te dirais. Mais on a eu, tu vois, on a dit, ben écoute, je pense qu'on a eu, on le voulait le deuxième enfant, là. Mais je dis dans mon show qu'on l'a un peu fait pour qu'elle ait quelqu'un avec qui jouer.
Mm-hmm, bien sûr.
Dans le fond, parce que moi, moi, j'étais pas. La mère de mes enfants était enfant unique, puis moi, je l'étais pas. Mm-hmm. Fait qu'elle, elle a un peu souffert de ça. Puis moi, j'étais tellement content d'avoir une sœur. On s'appelle encore, on s'aide encore. Fait que j'avais envie que mes enfants aient ça aussi, tu sais.
Ouais.
Toi, as-tu souffert de ça?
Je pense pas que j'ai souffert de ça, mais ça a marqué ma personnalité. Ouais. Ça, c'est sûr. Je suis la caricature d'un enfant unique.
Est-ce que ton père, c'était ton chum, ton ami, ou tes parents, non?
Non, mais j'ai eu la chance de grandir à Montréal. Alors, des amis, tu t'en fais facilement.
Des amis de quartier.
Voilà. Si j'avais grandi en région ou en campagne, je pense que ça aurait été plus difficile. Ouais. Être enfant unique en campagne, ouch! Mais
jouais-tu au hockey dans la ruelle, puis comme dans les films?
Ouais.
Et moi, je viens de l'Outaouais. Là, fait que, moi, je voyais des films, mettons, de Montréal,
de
des
ruelle.
Jeunes qui jouaient. Hey, on joue au hockey! Puis ça serait... Si je rêvais à ça, je voulais tellement... Je me dis, t'sais, tout le monde dit, ah, élever des enfants à Montréal, c'est mais... Sûr. Ça avait tellement l'air cool.
Oui, esprit de communauté, de proximité.
Oui, oui. Et aussi un esprit de... À l'époque, on n'avait pas de cellulaire, puis on s'est encore la génération de sortir dehors puis revenir à 6 heures. Fait que tu découvrais des affaires.
De faire chicaner par le père puis la mère de l'ami.
Ouais.
Il y avait quelque chose de communautaire.
Ouais.
On va vous élever ensemble.
Oui, ça, j'avais ça
mes
aussi.
Mes petits Chris.
Je me suis fait souvent dire, fais pas ça à mon garage. Oh. Puis oui.
Très cool.
J'en parle à Martin Petit. Un truc que moi et Martin Petit, on a en commun, c'est qu'on s'ennuyait, fait qu'on faisait du vandalisme. C'est ça qu'on pensait. Puis il avait dit, oui, ça c'est vrai, c'est prouvé par les études, mais un terrain de basket ou de soccer, puis le vandalisme descend. Il faut juste que les petits gars fassent quelque chose.
C'est logique en plus, vraiment.
C'est bien normal. Voilà. Mais parlons du gros luxe.
Ouais,
émission luxe. Marquante, en tout cas, pour notre génération.
Excuse de t'interrompre. Comment tu pitches ça? Parce que c'est pas décrivable.
Ça se pitch en plus, mais ça se pitch drôlement, avec plein d'honnêteté, je pense. Mais on avait fait, avant le gros luxe, il y avait une émission qui s'appelait Drôle de VJ.
Ouais.
Souvenez-vous de ça?
Ouais.
Puis il y a un humoriste, chacun notre tour. Louis-José l'a fait, moi je l'ai fait. Je pense que Mike l'avait fait aussi.
Crampe en masse aussi, je pense.
Crampe en masse, oui, c'est vrai. Fait que c'était comme un laboratoire. On s'est rendu compte plus tard que c'était peut-être une genre d'audition aussi pour Musique Plus, de zieuter un peu puis d'essayer d'aller chercher... parce qu'ils s'ouvraient à l'humour à ce moment-là. Là. Tu sais, ils voyaient que ça commençait à marcher, que les gens s'intéressaient de plus en plus à l'humour.
Il y a eu de plus en plus d'humour à Musique Plus quand Napster est arrivé. Quand tu n'avais plus besoin d'attendre ton vidéoclip, tu peux le downloader. Ouais.
Fait qu'il fallait proposer autre chose. Là.
Mm-hmm. Oui, puis YouTube n'existait pas à l'époque. Faut se souvenir de ça aussi. Fait que moi, il avait bien aimé ce que j'avais fait, puis on dit si jamais tu veux nous proposer quelque chose, il est arrivé la même affaire avec Louis puis de l'Oraclip. Fait que moi, je suis allé les rencontrer. Puis ça faisait longtemps que je pensais à ça, tu sais, de faire une émission où on se permet de faire n'importe quoi. Et je savais bien que c'est pas à TVA ou à Radcan. Quoique Radcan a déjà acheté les meilleurs moments, mais on s'en reparlera si vous voulez, mais ça, je capotais. Première émission, Radcan après Musique Plus. Achète les meilleurs moments du gros luxe et n'importe quoi, diffuse ça à Radio-Can, et moi, je suis assis dans mon salon et écoute, j'ai 3-4 bières et des chips. Je me dis, j'ai pris des photos de ma télé, parce que je me dis, ça se peut pas que le gros luxe.
Ils le font pas deux fois, là.
Non, non, c'est clair. Je sais même pas s'ils vont peut-être même canceller au milieu de la saison, parce que les gens vont dire, what the fuck? Ça part, cette affaire-là. Je vois le générique du gros luxe, je capote. Premier sketch, c'est l'extraterrestre en G-string qui danse sur une musique de cornemuse. Et là, tu vois, la, 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 puis là, t'as l'extraterrestre qui gigue. Écoute, ça, c'est un des beaux moments de ma vie, là. J'oublierai jamais ça. Je suis dans mon premier condo à vie que je m'achète avec mon argent. Parce que d'habitude, je volais des... Non, non mais j'avais pas... Tu sais, avec le groupe d'humour, on faisait pas d'argent.
Ben
les
non.
7 premières années, c'était de la merde financièrement. Fait que là, je commençais à faire des shows,
tout
ça. J'oublierai jamais ça, cette image-là, dans mon nouveau condo. Le gros luxe à Radio-Can. Fait que bref, mais le pitch de cette affaire-là...
Monsieur, c'est n'importe... juste vous dire, c'est n'importe quoi. C'est dans le titre, madame.
C'est dans le titre. Oui,
c'est dans le titre.
Oui, c'est ça. Exact, on vous l'a dit.
Oui, là, tu peux pas faire semblant que t'es surprise, madame.
Vous le saviez. Oui.
Ben là, fait, il est en G-string puis il danse, effectivement.
C'est n'importe quoi.
C'est le titre. Mais le pitch c'était que j'avais fait d'ailleurs à Paola Simonetto, qui est malheureusement décédée là, il y a quelques années, qui a été très, très, très importante pour les humoristes au Québec, parce qu'elle travaillait chez Musique Plus, nous faisait vraiment confiance, puis tout ça, c'est une femme que j'ai beaucoup aimée.
On sentait dans le show que pas grand monde vous disait quoi faire. Là.
Non. Mm. Et Paola, c'était ça. Des fois, on mettait des trucs en ondes. D'ailleurs, elle le regrettait à un certain moment donné, quand les avocats commençaient à appeler, là, elle disait « Oh, je fais semblant que je sais de quoi elle parle. » OK, OK. Puis là, elle venait nous voir. Puis elle nous disait, qu'est-ce que vous avez fait? Puis qu'on lui expliquait un peu ce qu'on avait fait au Groulux. Mais elle, le pitch pour l'émission, c'était, je veux faire un truc où c'est n'importe quoi.
Mm-hmm.
Mais elle disait, qu'est-ce que tu veux dire n'importe quoi? J'ai dit, c'est une liberté totale. On peut jouer des tours, on peut faire ci, on peut faire ça. J'ai dit, je veux un show où on se rassemble aussi, où on a des trips de gang, qu'on travaille ensemble. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas les réseaux sociaux pour communiquer tout ça. Il y avait la télé, les radios des fois. Quand on avait fait la marche Montréal-Québec, par exemple, les radios de partout au Québec, c'était mêlé à ça, puis c'était devenu un beau gros trip. Fait que, mais elle dit, mais je comprends pas n'importe quoi. Je dis, je tu sais, je l'ai dans la tête, je le sais, moi, je m'en vais, puis tout ça. Puis elle dit, tu vas faire n'importe quoi. Je dis, c'est dans le titre aussi. Mm. On va le dire, on fait n'importe quoi. Puis elle dit, OK, go. Ça a été ça, mon pitch. Toi, t'as déjà pitché à la télé, c'est sûr, là. C'est long, c'est compliqué. On parle de budget, on parle de toutes sortes d'affaires. Des fois, t'as une, les deux, documents. Trois, quatre réunions. Les documents, les, tu sais. Là, c'était, OK, c'est n'importe quoi, go. Fait que ça a été ça. Et là, ma rencontre avec Raphaël Ouellet, qui était super importante, qui a mis son grain de sel là-dedans, qui était très important aussi au développement de cette affaire-là, qui était le réalisateur.
Qui travaillait à Musique Plus. Puis qui
travaillait à Musique Plus. Très, très, très timide et gêné, mais une tête incroyable. Puis qui prenait de plus en plus de place dans le gros luxe. Puis moi, je l'écœurais. Puis Raph, le beau Raph, le jeune avec ses grands cheveux, que les filles tripaient dessus bien raides. Puis... Fait que cette espèce de chimie-là, et plus tard, il y a eu Tijan qui a fait des sketchs aussi avec nous autres. J'allais dire que je l'ai déjà dit, là, finalement, ça a pris du temps, mais que c'est lui qui faisait l'extraterrestre en G-string. Fait que c'était ses fesses à lui, qui était dans mon groupe d'humour, les catalogues, okay. D'ailleurs, Tijan aussi, avec Boubou.
OK.
Fait que finalement, fait que ça a donné quelque chose de... Probablement dans les plus beaux moments de ma vie où j'avais une liberté...
Total.
J'allais dire quasi, mais total. Mm-hmm. Pour vrai, là, une liberté totale. Puis en même temps, tu sais, des fois, les gens font pas confiance. Puis tu dis, j'ai une tête aussi, là. Je veux dire, t'es pas obligé de me dire déjà en partant, va pas là, puis fais pas ci. Puis, fait que je pense que ça s'est quand même fait dans le respect. Il y a des moments où on a peut-être dépassé la ligne un peu, mais sinon, ça a été bien, bien le fun. Puis après ça, c'était dur pour moi de retourner dans une télé plus conventionnelle ou... Mm-hmm. Il y a un bout où j'étais un peu perdu. Là. Je me disais, tu sais, j'ai eu le droit de faire n'importe quoi.
Souvent
là,
en télé, ce qu'ils aiment, c'est mettons des blocs clairs. Premier bloc qui se passe ça, deuxième bloc qui se passe ça. Nous, on écoutait le gros luxe parce que qu'est-ce qui va arriver au gros luxe?
Après la pause, tu sais pas.
On va voir.
Ouais.
On fait peur au monde. Ouais. On lit les plaintes.
Ouais.
Là, après, on se fait des câlins. Là, moi et ma soeur, on coupe des oignons.
on casse une bouteille sur la tête du gars. qui s'occupe du site Internet. Hey, ça, là... Ça, je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais... Je le présente à tout le monde, puis tout ça, puis... Puis là, je dis, c'est lui qui s'occupe des... Parce que les courriels commençaient, là. T'sais, on avait un tiers des courriels qui rentraient à Musique Plus à cette époque-là. C'était nous autres. Fait que lui, il travaillait en tabarnoute. Fait que là, je le présente, puis je dis, c'est lui, puis il s'occupe de ça, puis il vous lit. Puis je dis, tu sais, c'est ça qu'il fait. Tu sais, il y a le réalisateur, il y a nous autres... Puis il y a lui, tu sais, lui, il est là, puis il lit des courriels, puis blablabla, puis... Et là, tu vois dans sa face qu'il est pas content, puis il est insulté, puis il y a une espèce de bière, pas une bière, mais une bouteille de vitre qui est sur le coin d'un bureau, une bouteille de liqueur. À un moment donné, il s'écœure, il appogne, puis il m'a pète sa tête. Et je tombe à terre, mais tout le monde le sait. Non, personne le sait, en fait, sauf lui et moi. Raph le sait même pas, Tijan le sait pas, personne le sait. Et on est dans une pièce où il y a plein d'espèces de petits bureaux, là. Imaginez une place à cubicule, mais pas de cubicule, puis tout ça. Et là, la réaction du monde. Puis moi, je t'attends, je dis, aïe, tabarnak, pourquoi tu fais ça? Il dit, ben là, niaise-moi pas. Là, quelqu'un se lève dans le fond, mais là, mais il niaise, puis là, il y a personne qui comprend. Et là, Raph, qui s'avance, mais dit, qu'est-ce qui arrive? Puis c'est pas ce qu'il fait. Et là, je me lève, je fais, hey! Puis là, on danse un peu. Et là, Raph, il dit, non, là, t'es allé trop loin, ou quelque chose de même. Il est pas content. Tout le monde est en crise contre nous autres dans la station. Mais c'était ça, le gros luxe, c'était de se permettre de surprendre. On avait mis à un moment donné, j'avais vu ça en quelque part, j'avais lu que pour jouer un tour à quelqu'un, tu peux mettre du saran wrap, tu te souviens de ça, sur une bolle, tu sais. Ouais. Mais ça, on s'était fait des ennemis. Là. Il y a un tech, entre autres, je le nommerai pas, il est encore en crise contre moi. Puis à un moment donné, j'y ai dit, je l'ai recroisé il y a 6-7 ans à peu près, j'ai dit, man, décroche, là. Ouais. C'était pour le fun, tout ça, il dit, je décrocherai jamais, mon hostie.
Dans quelque part, je le respecte!
Ben oui!
Oh, je respecte ça, là, man!
J'avais pas vraiment...
un principe!
Je décrocherai jamais mon esti!
Mon esti!
Et moi, j'étais un peu baveux, le rendu là, j'ai fait, hey man, décroche, là, comme. Oui. Sur ce ton-là, là, décroche, tu sais, il dit, écoute-moi bien, man, décrocherai jamais mon esti! Il est encore fâché. Je le recroise encore, hein? Je l'ai encore vu il y a 2 ans.
Ce qui est drôle là-dedans, c'est, c'est la chose la plus tech de tous les temps. Bien sûr! Que le tech! Il va s'accrocher!
Pour le restant de ses jours, envers Patrick Gouin. Oh. Non!
Un bout qui m'a fait rire aussi, c'est quand tu faisais des peurs au monde.
Ouais.
Il y a des gens qui étaient, hey non, là. Moi, là, je travaille.
Ah, non.
Oui.
Tu sais que c'est ma première journée de la job, ça. Première journée au bureau. Je fais chier tout le monde dans la place. Je me souviens d'avoir dit à Raph, on va donner le ton. J'étais gêné. Ça, faut savoir ça. Tout le monde disait, t'avais du guts. Oui, parce qu'il y a des caméras.
Ouais.
Comme à job de bras, des fois, sur le pont Jacques-Cartier, en haut, ben droite, dans une petite tour Eiffel, j'avais peur des fois, mais il y a une caméra. Je veux pas avoir l'air du gars qui a
tu
peur.
Tu fais pour le show.
Oui, fait que c'était ça le gros luxe aussi. J'aimais pas ça. C'est pas dans ma personnalité, tu sais, de déranger puis de faire chier le monde.
Ouais.
Mais quand c'est pour la télé, c'est super le fun à faire.
T'sais. Parce que c'est une caméra, c'est drôle. Si, le gars, il se promène pour vrai.
Oui, pour vrai. Pour, pour lui.
C'est le gars.
Il veut vraiment se faire plaisir.
À sa première journée.
Je comprends le tech. Je comprends le tech qu'il a eu. Il est complètement fou.
Quelqu'un fait ça d'un bureau.
Oui, on t'a vu t'écouter, c'est rough.
Ton chum te filme en quelque part. Non. OK, mais t'enregistres.
Non. Je voulais juste te gosser.
Ouais, je m'amuse. C'est fun,
come on.
Les collègues.
Ma chanson préférée, c'est « Dans les bois ».
Ah, c'est...
Dans laquelle on retrouve aussi Sylviane dans le vidéoclip. Ça m'a vraiment...
T'as-tu compté ces affaires-là?
Vas-y,
non?
Raconte.
Non, c'est juste que dans les bois, c'était dans le spécial bois. On avait fait le vidéoclip « Dans les bois » où on retrouve d'ailleurs les Denis Drolet. Mike Ward est là. Tijan est encore là.
Louis-Jo, je pense.
Louis-Jo, c'est vrai. Louis-Jo, il est là aussi. Fait que c'est un vidéo qui roule à Musique Plus. Ça,
beaucoup.
D'ailleurs... Beaucoup. Mais
vous avez gagné le combat des clips ou.
Mais, écoute, on était numéro un pendant je sais pas combien de semaines. Là, imagine, toi, t'es un gérant. T'es un gérant producteur de chanteurs. OK. Tu t'as payé, ça t'a coûté 50 000 ton Christy de vidéoclip, là. Puis t'as tout le temps cet esti de clip-là de Dans les bois qui finit numéro un.
Les
hosties
du Maurice.
La place, oui. Le vrai chanteur.
Ça a coûté 11 piastres.
Ça a coûté 11 piastres, exact. C'est à peu près ça. Puis qui roule. Fait que c'est une chanson puis un vidéoclip qui est devenu ben connu. Fait qu'après ça, quand j'ai, en 2004, je pense, Louis-José et moi, on a co-animé la Saint-Jean-Baptiste et Plaine d'Abraham cette année-là. Okay. Je sais pas si, en tout cas. Et puis c'était le gros show des plaines télédiffusées, tout ça. On a fait plein de niaiseries d'ailleurs cette année-là. Mais entre autres, on faisait la chanson « Dans les bois » qu'on a fait sur scène, je pense que c'était la même année, à peu près la même année du Gros Luxe en plus. Je pense qu'on était encore en onde ou sinon ça venait de finir cette année-là. Fait que t'es devant 250 000 personnes, c'est Plaine d'Abraham. Et là, on fait cette chanson-là. Là, j'invite les Denis. On invite les Denis parce qu'on voulait qu'ils, dans le temps de Fantastique et tout ça, et que c'était malade, ce Saint-Jean-là. Là, j'oublierai jamais ça de ma vie. Et là, j'invite, évidemment, l'extraterrestre en G-string. Ah, faut que je vous compte de quoi de malaisant après, je viens de penser à de quoi, mais bref.
Génial.
L'extraterrestre est là, et là, ma sœur.
Ouais.
Et ma sœur est hyper nerveuse. Sylviane, elle ne fait pas de télé dans la vie. Puis on le sent des fois à l'émission, elle joue à ça, mais elle est un peu gênée. Puis c'est ça qui faisait son charme aussi.
Ouais.
Là, il est devant 250 000 personnes. Puis là, je dis, répète tes lignes. Puis là, elle les répète, puis elle est stressée. Puis là, elle regarde, elle dit, je peux pas croire qu'on va faire ça. Puis finalement, on le fait. Et ce soir-là, c'est moi qui se trompe. Et je viens pour chanter, j'y saccage sa ligne un peu. Et là, hop! Oh, puis elle arrête de chanter, puis elle me regarde, puis elle a l'air un peu épaisse. On va se le dire. Devant 1 million de personnes à la télé, 250 000 lives, à cause de moi, tu sais, à cause d'un...
Qui a fucké la...
Fait qu'elle se disait, mais tu sais, elle a toujours dit, moi, je vive des affaires de même, ça n'a pas d'allure, tu sais. Mm. Elle n'aurait jamais vécu, tu sais. Pis...
Penser vivre ça.
Non, de penser vivre ça à un moment donné. Fait que c'est des beaux trips aussi qu'on a fait ensemble. Mais je voulais dire, l'extraterrestre en G-string.
On t'écoute.
Un moment donné, il y a eu le show à Musique Plus, le gros show, 18 c'est majeur.
Ah oh, oui!
Oui, oui, oui.
Oh, mon Dieu.
Là, on fait dans les bois. Mais moi, je pense pas que t'as fait à ça, là. 18 ans, c'est majeur, Musique Plus. Écoute, t'as du monde de quel âge là-dedans, là? Ils sont jeunes, c'est des fans de Musique Plus et tout ça. Et on chante la toune dans les bois. Louis est là, ce fois-là. Louis-José est là.
Puis 18 ans, c'est majeur, c'est pour dire, c'est pour fêter les 18 ans de Musique Plus.
18 ans de Musique Plus. Ouais. Mais il y a des jeunes là-dedans. Il y en a plein, là. Ouais. On les voit, tu sais. Puis et à un moment donné, il faudrait que je retrouve ça. Ça doit exister en quelque part sur YouTube. L'extraterrestre en G-string qui arrive puis qui gambade pendant la toune dans les bois, mais il y a un G, là. Là, il y a plein
micro,
de jeunes. C'est malaisant.
G.
Un micro-G. Il a la poche à peine cachée et il gambade puis t'as ses deux petites fesses blanches. Asti, j'oublierai jamais ça. Et en chantant, je me suis rendu compte de ça. Là, j'ai fait,
oh,
c'était peut-être pas une super idée, ça. C'était peut-être pas le flash du siècle de demander à Jean de se promener dans les rangées au Centre Bell puis de... Aïe, aïe, aïe.
Oh, en tout cas, my God.
Mais ça a été des maudites belles années.
C'est
vraiment.
Ça, c'est vraiment des beaux souvenirs. Puis c'est comme, on dirait que c'est de la création explosive, là. Tu sais, c'est tellement...
Mais c'était souvent, on allait manger au resto en face de Musique Plus.
Oui, l'espèce de pizzeria.
Ouais. Exact. Là, comment ils appelaient ça? J'ai un blanc pour faire exprès. Mais puis on avait, il nous manquait, mettons, 10 minutes dans le show, 15 minutes dans le show. Puis on parlait à Pat Villeneuve, qui est un DOP très reconnu aujourd'hui, qui a fait le gros luxe, avec qui je travaille encore. Puis on dit, ben va chercher une cam. On va se promener sur la rue, puis... Les câlins, c'est ça. Les câlins, c'est un accident. Les câlins, là, les gens pensent à un événement. Non, non, les câlins, c'est... Il nous manquait à peu près 5 minutes dans le show. Puis c'était souvent ça, d'ailleurs. Et là, je dis, je vais aller faire des câlins au monde. Puis on va voir comment les gens vont réagir. Est-ce qu'ils veulent se faire serrer? Est-ce que... Puis là, on voit la petite twist gros luxe. Est-ce qu'il y a un manque d'amour dans la société? On va déconner avec ça. Puis ça a commencé comme ça. Puis moi, je pensais que les gens allaient me pousser puis me traiter de tout et non. Puis tu sais, on était dans un quartier aussi assez coloré. Et fait que c'est ça. Puis finalement, je me suis rendu compte que les gens prenaient plus qu'on pensait des câlins.
Dans le red light, les gens aiment les câlins.
Oui, exact. Puis après ça, on s'est dit, ben ça serait capoté de faire. Puis ça veut peut-être dire qu'on manque d'amour. Fait que là, évidemment, c'est absurde. On se pose des questions. Faudrait peut-être faire un rassemblement de câlins, tu sais. Puis ça a commencé comme ça, mais là, encore une fois, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de Facebook, il n'y a rien dans ce temps-là. Fait que notre seul moyen de communiquer avec les fans, c'est de leur parler à la télé. Fait que là, on a dit, hey, on essaye ça telle date. Là, je ne me souviens pas par cœur, mais on se fait un rassemblement, Parc La Fontaine, gros rassemblement de câlins, blablabla. Et c'est comme ça que ça a commencé. Le premier rassemblement, Vincent Vallière était là. Chantait des tunes dans le Parc La Fontaine. On avait une roulotte slush. Parce que ma sœur et moi, on faisait des compétitions de calage de slush à un moment donné.
Fait que
slush, comment dit-t'es ça? Tout le monde avait de la slush. Puis, ah non, je te dis, ça a été complètement capoté. Puis on se disait, il n'y aura pas personne. Il n'y a personne qui va se déplacer. C'était puis il y avait eu, je pense, 500 personnes ou 1000 personnes la première année, je ne me souviens pas. Et on l'a refait la deuxième année, mais là, les gens l'attendaient plus. Bon, on avait fait un montage à la télé, puis tout ça. Puis il y avait eu 2000 personnes à Montréal, 4000 à Québec. C'était complètement fou, là. C'était toute qu'une patente.
Sacrifice.
C'est incroyable.
C'est très YouTube.
Oui, c'est ça.
Ben, c'est
du YouTube avant YouTube, dans le fond.
Je pense que oui. Il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit ça, un chroniqueur télé, qui m'avait dit que c'était comme du YouTube avant YouTube. Parce
mais moi,
que...
je sais plus que vous avez inspiré YouTube, parce que ce qu'il y avait, l'énergie qu'il y avait au gros luxe, il y avait aussi sûrement en France, un peu aux États-Unis, un peu... Parce que c'est nouveau, la télévision, que tout ce qui passe doit être
approuvé
à ce point-là. Oui.
Voilà.
Ah, ouais, complètement. Ouais.
Mais à ton époque,
ouais.
Moi, à l'époque où j'écoutais la télévision, ouais. Je pense pas que tu aurais fait approuver, m'a fait peur au monde dans les couloirs puis le mettre ah, le passer en onde.
Puis il y avait cette génération-là aussi. Mm. Chaque fois que je fais une entrevue avec Paul Oud, Paul Oud me parle du gros luxe. Parce que ça l'a rapproché. Il écoutait ça avec son gars, ses gars.
Oui, il jouait avec un de ses gars, oui.
Ouais. Fait qu'il il écoutait le gros luxe
ouais.
avec eux autres. Fait que c'était leur émission. Leur sinon, lui, comme il disait, j'avais mes émissions, il y avait leurs émissions, mais le gros luxe.
Connectait.
On écoutait ça, puis ça arrivait aussi. Jeune sœur avec un frère de.
Ouais, plus vieux.
C'est une
ouais.
sœur de 12 ans, puis un frère de 20 ans. Tout ouais. le monde trouvait ça drôle, le gros luxe.
Ouais.
Tu sais, ça.
Ouais, exact.
Ça marchait pareil. Fait que. Non, ça a été une super belle époque. C'était un laboratoire, puis. Puis c'est ça. Puis comme je te dis, comme je disais tantôt, la déception est grande après. Tu fais comme, hey, tabarouette, je.
Ouais.
Je ne revivrai jamais ça de ma vie. J'ai vécu plein de belles affaires.
Ouais.
Mais ça arrivera jamais.
Tu sais. Ouais.
Pense pas, en tout cas.
Job de bras, c'était une émission qui était plus encadrée, bien évidemment. Mais tu sais, t'as fait quand même des affaires vraiment ouais. cool dans le cadre de cette émission-là. C'est quoi ta job préférée ou quelques-unes de tes jobs préférés que t'as faites? À part clown de rodéo, là, mais...
On rit, mais ces tripes-là, à chaque fois que je faisais de quoi, que je me disais, un peu comme ma sœur qui m'avait dit, jamais j'aurais pu être devant 250 000 personnes.
C'est ça, c'est que tu t'es retrouvé à faire plein de métiers.
Complètement.
C'est vraiment, c'est une chance quand même, je trouve ça cool que, tu sais, des fois, on choisit des carrières, on choisit des métiers, on n'a pas, t'as la chance d'avoir
essayé des choses. Et c'est le pas game ultime.
Ben, complètement. Là ta virilité, là, c'est là que tu... Tu te rentres le ventre, tu te sors le chest, puis tu vas faire ce que t'as à faire, puis t'es viril. Puis dans le fond, t'as le petit cœur qui bat 100 000 à l'heure, puis j'étais content, je me voyais à la télé, je me disais, à part le rond de piste, là, ça paraît pas trop que j'étais bien nerveux.
Qu'est-ce que ça fait de peur?
Ben, un de mes premiers, c'était avec les pompiers araignées de la ville de Montréal, fait que qui font des exercices cette journée-là, tout ça, puis ils nous montrent comment faire, parce qu'eux font de la descente en rappel, font de l'escalade aussi, ils vont chercher des gens sur le pont, des fois, un peu partout. Fait que c'est pour ça qu'on les appelle les pompiers araignées. Moi, là, je sais même pas si ça me fait peur, les hauteurs, ou... Je sais que d'une échelle, je suis pas pire, là, mais 250 pieds, la place du Puy. Ici, on est sur le toit, et derrière l'hôtel, là, on descend ça en rappel. Moi, 250 pieds, c'est 25 étages, là. Fait que je me retrouve en haut, là. Puis les gars sont un peu cocky, tu sais.
Ben
ils sont
oui.
fins, mais ils me niaisent. Hey, c'est la corde qui a pété la semaine passée, ça, l'as-tu réparé? Puis là, ça fait des jokes, mais tu sais, quand t'as peur, tu veux pas que ça paraisse, ça marche, puis c'est pas le temps. Pas le temps de faire des jokes. T'as moins d'humour quand t'as la chienne, tu remarqueras, là. Fait que là, je les écoute, puis je ris en tête, puis je fais semblant que ça me dérange pas. Mais moi, j'ai la chienne. Je me souviens quand il me lâche dans le vide pour la première fois, puis t'as ta corde, puis t'as tes deux pieds aussi sur le bâtiment. Et quand je suis tombé dans le vide, ça fait... Je me souviens de l'espèce de souffle qui m'a coupé là. Puis là, j'ai comme arrêté d'avoir peur à un moment donné. J'ai eu bien peur. Là, j'avais plus peur. Puis je me suis dit, ben...
On y va, on le fait.
Peut-être un show qui est fait pour moi aussi, finalement. T'sais, parce que c'était moins pire que je pensais. Fait que souvent, on me disait... Là, j'ai l'air d'un gars qui se vante. Je vous dis ce qu'on me disait. On me disait, Christ, t'es courageux. Puis moi, je ferais pas ça. Puis blablabla. Puis je dis tout le temps, c'est pas du courage quand t'as pas peur. On va être honnête là. Quand t'as peur de quoi, puis tu passes par-dessus tes peurs, puis tu le fais, ça c'est courageux. Mais quand t'as pas peur des hauteurs, pour vrai monter, moi j'ai eu peur sur le pont Jacques-Cartier parce qu'à un moment donné, il y a eu du tonnerre, des orages, puis fallait descendre là. C'est ça qui m'a fait peur, mais ouais. d'être debout là, j'étais debout sur une éolienne à 250 pieds dans les airs, à Saint-Ulrich en Gaspésie.
Wow.
C'est un des plus beaux moments de ma vie, fait que il n'y avait pas tant de courage que ça. Il y a eu des moments où il y a eu plus de courage, où je me disais, je vois-tu...
C'est pas les hauteurs qui te faisaient peur.
Non, c'était le... Puis tu sais, je suis pas claustrophobe, zéro. Mais je me suis rendu compte qu'à un certain point, je l'étais peut-être un peu avec les... D'ailleurs, tu me demandais c'était quoi mon préféré tantôt. C'est un peu avec la même gang, les services d'urgence de la Sûreté du Québec. Ben, moi, là, j'ai capoté là. Je vais le compter après. Là, j'ai fait de l'hélicoptère. On faisait du sauvetage en hélicoptère. C'était ça, mon préféré. Mais...
C'est un cauchemar pour moi.
Ça. Oh my God, que c'était le fun. J'en parle, puis je capote. Là, mais on avait fait avec eux autres aussi l'escouade anti-bombe.
OK.
Fait que... Il fallait, c'est une simulation, oui, bien sûr, aller désamorcer une bombe.
Hey, il y a le vrai bon, il y a même l'humoriste.
appelle chez Z Télé. Oui. Ils vont nous envoyer
plein de
vidéos. Mets ce soute-là, hein,
oui. Oui. Mais c'est le rouge, c'est le vert.
T'as-tu amené de la bière pour tout le monde? Parce que tout le monde est relax.
Stick. Mais c'était l'habillement, le costume qu'ils te donnent parce qu'il y a des couches à cette affaire-là. Ah. Fait que là, mettre un kit, c'est pas
pire. Oui, parce que aussi dans les bombes, des fois, il y a des clous et des affaires de même. Là,
exactement. Fait que là, t'as ton...
bombe,
oui, mais des fois, ça peut être juste, mettons, explosif, feu, mais des fois, c'est qu'ils mettent des morceaux.
Non, puis bactériologique aussi.
Oh! Ah.
Alors, tu comprends les layers, comme on dit en anglais. Fait que là, t'as une couche, t'as deux couches. Là, tu respires là-dedans parce qu'ils vont te mettre ton oxygène tantôt. Puis là, ils te tapent, là. Tu sais, fait que là, à un moment donné, là, j'ai commencé à avoir chaud. Je suis pas claustrophobe, mais dans un kit de même, première fois qu'on me met un kit de même, fait que il y en a sûrement qui sont bien excités de ça à la maison. Avec la petite paire de...
Fait que c'était la première fois qu'on me mettait un kit de même, mais pas la dernière. Tu m'as entendu?
Ils ont peut-être écouté ce show-là sur plusieurs reprises. Avec une bouteille de
ketchup. Tu le ramènes à la maison ou je le ramène demain?
Mais ce qui est le plus épeurant là-dedans, c'est que disons, tu fais ça me tente plus. Ouais. Tu peux pas sortir avant 10 minutes.
Bon, ben garde. Ça, là, tu viens de nommer ce qui a.
C'est ça, oui, je comprends.
Ce qui a initié ma panique.
C'est ça.
C'est que là, j'ai fait. Là, je manque de souffle, et je panique, n'importe quoi.
Ouais.
Et ça va prendre 10 minutes.
Me détailler.
Et là, je commence à avoir chaud. Comme là, d'ailleurs, j'ai un peu chaud. Je commence à avoir chaud, puis tout ça. Puis là, je me sens pas bien. Puis je leur dis, je me sens pas bien. Puis on est dans une espèce de. Une tente orange, là. Tu sais, c'est des toiles, puis tout ça. Puis c'est l'été, puis il fait déjà extrêmement chaud. Puis je dis, je veux sortir. Puis les gars, les filles étaient super, vraiment gentils, vraiment cool. Là, ils m'ont regardé, bien fin, on se dit, ça changera rien. Tu sais, t'as chaud, t'es dans ton soude quand même bien qu'on te sort de la toile rendu là. Ouais. Puis je me suis assis, puis j'ai dit, je veux de l'oxygène parce que je savais que j'allais porter mon masque, puis tout ça. Puis il dit, ça non plus, ça changera rien. Puis je me souvenais, moi, à Job de bras, les pompiers, parce qu'on a fait beaucoup d'émissions avec des militaires, des pompiers, tout ça, disaient que l'oxygène, c'est frais. Puis j'avais dit, c'est pas grave, je veux de l'oxygène, puis c'est ça que ça a fait. J'ai eu l'oxygène, fait, respirer comme ça, là, oh my God, j'avais de l'air frais dans les poumons, ça m'a calmé, ça m'a fait du bien, puis là, ils ont dit, veux-tu qu'on te déshabille? J'ai dit, non, là, je suis correct. Fait que cette petite panique-là a passé, mais quand je la vivais, là, c'était vraiment angoissant, puis c'était pas le fun, puis... Fait que, tu sais, avant de l'essayer, tu peux pas savoir même que t'as peur de quelque chose avant de le faire.
Oui, je sais, j'aurais peur tout de suite.
Oui, tu penses?
Dans ce soute-là. Non.
Tom, mais non, arrête. Là, Tom, il fait la grande roue dans le vieux port. Il est à terre.
Pour
avec...
vrai? La roue, c'est quoi? C'est les hauteurs que t'aimes pas? Ou le...
Tout.
Ou tu te dis ça va casser, ouais, t'imagines le pire.
J'aime pas les hauteurs, j'aime pas que ça casse, j'aime pas que ça bouge.
Ouais.
Et je suis contrôle freak.
Ouais.
C'est pas moi qui décide quand est-ce qu'elle arrête, c'est pas moi qui décide quand est-ce qu'elle arrête. C'est toutes des choses.
Non, c'est ça. Ouais. De faire confiance aussi.
Voilà.
Ça, Job de bras, c'était beaucoup pour moi des fois, là, parce que ça, je pense que je vous dis de quoi que j'ai jamais dit, là, mais les équipes, tu sais, comme quand on allait rencontrer des soudeurs, tout ça, n'importe qui, là. Eux, nous, on est. Moi, je suis nerveux parce que j'ai jamais fait ça. Puis je veux être bon. Tu sais, à la base, là, j'étais un peu orgueilleux. Mais eux aussi, ils veulent être bons, mais ils n'ont jamais vu ça des caméras. Il y a un risque quand même. Fait que les autres aussi sont nerveux. Puis des fois, ils oublient des affaires, puis ils pensent pas. Puis, il y en a eu des trucs qu'on vous avait pas vu à l'émission, mais qu'on a vécu des fois. Puis c'est normal, là, c'est complètement humain. Puis 226 épisodes, tu peux pas. Fait que. Puis c'est arrivé à un moment donné où j'ai commencé à faire une tac. Puis ça, il faut faire attention. Tu as des masques, puis tout ça en soudure. Puis on l'a pas passé à l'émission, évidemment, mais le soudeur, puis on a fait souvent de la soudure, fait qu'il se reconnaîtra pas. Mais il était tellement nerveux, il a oublié parce qu'il y avait deux trucs, puis il avait oublié de me le dire. Fait que moi, je pars ça et bang, là, j'ai un flash dans les oreilles. Dans les oreilles. Ça va bien dans les yeux.
Ouais.
Fait que j'ai appelé un de mes chums, moi, qui en a fait de la soudure, qui travaille chez Bombardier. Tout ça, je l'ai appelé tout de suite. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Puis il m'a un peu expliqué de mettre de l'eau là-dedans, puis tout ça. Puis... Ouais. Fait que les équipes sont nerveuses. Fait que quand tu parles de perte de contrôle, moi aussi, j'aime ça avoir le contrôle.
Ouais.
Puis il y a un bout où il faut que tu fasses confiance. Mais tu sais que tu fais confiance aussi à des gens qui sont nerveux, et c'est normal, ils sont aussi nerveux de toi à cause des maudites caméras. Oui. Puis ils savent, eux autres, que leur blonde leur écoute,
oui,
les
famille,
enfants vont voir ça, ils veulent être bons, ils veulent bien, ou bonnes, ils veulent bien performer.
C'est ce que je reproche, puis... moi, souvent, à Occupation Double.
Mm.
Oh, ouais, il est de même, lui. Non, non, non.
Non, c'est
il
ça.
Est de même dans les caméras, ouais. Dans un show. Dans...
Puis ils sont nerveux, eux autres aussi. Là.
Mais oui.
Puis ils veulent performer, puis c'est une compétition.
Non, non, non.
Puis c'est ton avenir, parce que tu peux avoir un métier ensuite.
Ouais.
Je pense pas que c'est une super idée d'avoir des opinions sur ces... dans les circonstances, ces circonstances-là.
T'es complètement déstabilisé.
Ben oui, t'es filmé, t'es censé être désiré, t'es censé plaire au public en même temps, tout ça est mélangé. Mm-hmm.
Puis t'as écouté les saisons d'avant, puis tu sais qu'il y en a eu de la shit, puis du monde qui se sont fait insulter, puis fait quoi, ça aussi, ça joue. Mais bref, c'est ça. Mais ça a été ça aussi bien le fun. Puis la meilleure expérience, c'est ça. C'est du sauvetage en hélicoptère. Moi, j'aime voler. Moi, j'ai déjà pris des cours d'aviation. Je les ai pas finis, mais cours d'aviation privé. Là.
Ouais, ouais.
Et puis là, j'ai eu des enfants, changé de plan. Mais bref, c'est ça. Vous savez, c'est quoi?
Puis moins de temps pour le loisir personnel.
Tu te sens mal déjà quand t'es en tournée, puis tout ça, puis tu vois moins tes enfants, d'aller voler pour avoir mon dad.
Oui, excuse-moi,
time.
Oui, ça...
un peu mal vu. Tu sens pas super bien. Fait que là, cette journée-là, on fait du sauvetage en hélicoptère. Moi, j'aime ça, je capote. Et là, il y a une simulation encore. On s'en va dans une forêt, là, un vrai bois. Il y a une comédienne qui est là, qui joue la victime, qui est blessée en forêt. Fait qu'on décolle. Écoute, avec le saut des services d'urgence, puis sauvetage en hélicoptère, les gros casses oranges, là, comme tu vois. Et là, on part. Et là, on arrive au-dessus des arbres, comme dans les films. Et là, il y a un treuil, descend un treuil.
Mm-hmm.
Puis moi, là, c'est moi qui vais sauver ce fille-là.
Ah! Oh, quand tu dis comme dans les films.
Comme dans un film. Je suis en train de descendre le treuil. Les arbres, les branches, ça bouge de même. Puis il me laisse tomber entre les arbres.
Ouais.
Et là, je vais la voir. Puis moi, j'y sauve la vie. Hey, je suis rentré chez nous le soir. Là. J'étais plus capable... d'arrêter d'en parler. Je disais à ma blonde dans le temps, c'est ça que je veux faire. Puis le lendemain, on faisait une autre journée avec les services d'urgence. Fait que là, j'avais bien hâte de voir, mais je dis, c'est ça que je veux faire. Je veux faire du sauvetage en hélicoptère. La merde, fuck l'humour, j'ai raté ma vie. C'est ça que je veux faire. Puis j'étais persuadé, puis je le savais, même encore aujourd'hui.
Oui, que t'as une vocation pour ça.
Une vocation pour ça. Le lendemain.
C'est pas tout le monde qui est capable.
Non.
Non, c'est clair.
Moi, je suis pas capable.
Mais c'est...
Moi, je fais « Aka crève ». Quoi, là? Regarde, on est libre
pourquoi
de...
Pourquoi est-elle là?
C'est ses choix. Ben, gars.
Qu'est-ce que c'est que Christ?
T'as voulu faire du vélo de montagne podcast?
Mais voilà.
Arrange-toi.
Crève. Mais voilà. Voilà. J'irai pas. Retourne à la maison.
Crève.
Non, je descendrai pas.
Oh my God. Une chance que ça prenne une sorte de monde.
Les arbres qui bougent. Voilà.
Hey, moi, c'est incroyable. Mais le lendemain, je revois les services d'urgence, tout ça, puis je leur en parle. C'est ça que je veux faire. Qu'est-ce que je fais? Par où je commence? Je suis sérieux, là. Et là, un des gars qui m'explique, oui, mais attends, là, tu commences pas là.
Ouais, c'est ça.
Il y a comme un 10 ans de patrouille à faire, là, puis un 10 ans de. Et après ça, il me semble que c'était ça, 10 ans. Là. Peut-être que je me trompe, mais.
Tu te spécialises là-dedans.
Oui, puis après ça, tu te spécialises. Mais 10 ans de patrouille, il me tentait moins.
Oui, ouais, sur l'autoroute.
Petit grouille, c'est 5 pieds 7. Là. Tu fais là, toi.
C'est vraiment l'équivalent de le premier humoriste. Première chose qu'il fait, c'est faire la première partie de Louis-José Hood à Wilfrid Pelletier. Fait, je veux faire ça dans la vie. Qu'est-ce que je recommence? Non, faut que t'ailles à l'open mic du bordel hein, à 22h30.
L'open mic du bordel, t'es fin, là.
Oui, c'est ça, non. Faut que t'ailles à Québec.
À Verdun, hein, là.
Ouais.
Tranquille. Oh! C'est fou que tu sois tombé en amour avec ce métier-là.
C'est fou. Puis le titre de mon troisième show, c'était Job, deux petits points, humoriste.
Mm.
Parce qu'après ça... Tu sais, je revenais à terre un peu. Puis, tu vois, cette espèce d'adrénaline-là, je me suis rendu compte que c'est ça, je pense, que j'aime beaucoup de mon métier, entre autres. Faire rire les gens, évidemment, mais cette espèce d'adrénaline-là, ce challenge-là, c'est un méchant challenge quand tu y penses, de te dire, je vais monter sur un stage, je vais faire rire du monde.
Mm-hmm.
Tu sais, tabarouette, OK, il y a de quoi d'angoissant là-dedans, mais de bien, bien, bien stimulant aussi.
Ouais, pendant une heure, parce que tu peux faire pendant 3-4 minutes.
Ouais.
Bon, une bonne joke. 283, c'est plutôt.
Ouais.
Mais tu sais, tu parlais de perte de contrôle. T'en as pas tant que ça sur une scène, là.
Ben, c'est quand même moi qui décide qu'est-ce que je dis.
Ouais, mais la réaction, des fois, vas-tu avoir un soulon dans le fond? Vas-tu.
Oh, mais j'ai vraiment l'impression que je suis en contrôle.
Ouais.
C'est l'endroit où t'as l'impression que t'es en contrôle. Ouais. Peut-être, c'est peut-être ça.
Partout, je m'arrange pour le contrôle. C'est une de mes pathologies. Ça, c'est un autre. Par contre, je pense à ça. C'est indiscret ou je sais pas si ça rapport. Dans le job de bras, traduire, c'est quoi le vrai job? Sauver quelqu'un.
Ouais.
Aider.
Souder quelque chose.
Ouais, c'est concret.
Ouais.
Tu t'offres des fois à retourner faire de la scène en disant, mais c'est pas concret, ça. C'est juste du vent, c'est du.
Non, je pense qu'il y a une utilité dans ce qu'on fait. Mais comme je dis souvent, il y a trop de gens dans notre milieu qui pensent qu'ils sauvent des vies,
mm-hmm.
mais qui se pensent tellement importants, puis tellement... Puis moi, j'ai pas été élevé comme ça. Moi, j'ai des parents très terre-à-terre, surtout mes grands-parents. Une grand-mère qui me ramenait à l'ordre mm-hmm. assez vite, puis pas comme humoriste quand on était jeune. Là.
Mm-hmm.
Elle disait, un, il n'y a personne qui a le droit de se prendre au sérieux dans la vie.
Mm-hmm.
Puis tout le monde a besoin de tout le monde. T'sais, moi, j'ai grandi avec ces valeurs-là. Fait que quand on m'a offert, il y a 15 ans, l'animation d'un show comme job de bras, mais j'étais super content de pouvoir enfin mettre en lumière ces travailleurs-là, ces travailleuses-là, un peu partout, parce qu'on voit jamais ce qu'ils font.
Mm-hmm.
On parle tout le temps de l'élite, hein? Vous remarquerez, là,
oui.
On parle des artistes, des humoristes, des chanteurs, les écrivains, les médecins, les cardiologues, on peut en nommer longtemps, mais les gens qui se lèvent à 4 heures du matin, qui vont travailler à moins 20 dans un poteau en quelque part ou dans le Grand Nord, ou qui font qu'à cause d'eux autres, on peut s'éclairer, on peut manger, les agriculteurs, on n'en parle pas beaucoup.
Ouais.
Puis quand moi, j'étais plus jeune, c'était pas valorisé, ça. Je pense pas que ça. Je pense que ça l'est plus qu'avant, mais pas tant que ça.
Faire son deck pour certains parents. Si ton enfant fait son deck, c'est un échec.
Ouais.
Ce qui est débile, parce que ça, c'est de la belle argent, c'est des métiers concrets.
Ouais.
Si t'aimes ça aussi.
En plus.
T'aimes ça, puis c'est le challenge, l'adrénaline. Ouais. On parle de TDAH des fois, là. C'est des jobs incroyables de TDAH, ça, là. Ouais.
J'ai lu, c'est nouveau, il y a de plus en plus de femmes dans ces jobs-là.
Ouais,
parce que c'est ouvert, l'équité, c'est ouvert. Il y a de plus en plus de femmes.
Il y a plein de femmes manuelles aussi. Ouais. Autant que
Je vais faire une petite plug pour eux autres. Sur Instagram, il y a Femmes de la construction. Vous irez voir, là. Ils sont organisés. Je pense qu'ils ont... Écoute, il faudra aller voir, là, mais je pense qu'ils ont 700 personnes sur Instagram. Puis tout ça, puis c'est trippant ce qu'ils font. Ils ont du merch, puis ils sont fiers, puis... C'est vraiment cool. Là.
Justement, quand on fait un peu de tournée, toi, t'en as fait beaucoup, mais on sort des grands centres puis on croise ces gens-là. Oui. Parce que dès que tu sors là, de la grande région de Montréal ou même tu sors un peu de Québec, les gens dans les villes,
ils
travaillent à l'usine ils travaillent, tu sais, tout le monde a des jobs d'entretien, de paysagement, de dépendance, c'est quoi aussi les industries dans cette région administrative-là, mais là, c'est là que tu le vois là, de tes yeux, c'est très concret là, dès que tu te promènes un peu.
Puis, tu sais, j'ai tellement d'admiration pour ces gens-là, pour les métiers, pour... C'est vrai, ça, que tout le monde a besoin de tout le monde.
Ah oui. Mm-hmm.
On a beau dire, c'est pas cool de dire ça, c'est vrai.
Ouais.
T'es pas fin quand tu dis ça, c'est vrai.
Mm-hmm.
C'est la réalité.
Ah ouais.
On a fait, je me souviens plus quelle saison, mais on avait fait le métier de gruteur, les grues. Puis tu sais, les grosses grues dans le port de Montréal, là, comme ça, puis ils vont chercher
les containers,
là, tu sais. Puis il y a de quoi qui m'a frappé ce jour-là. Moi, tu sais, quand tu vois une grue de chantier, là, de 100 pieds dans les airs, là, moi, je m'étais jamais posé la question avant 32 ans. Ça vient d'où, ça? Comment ils l'ont amené ici? Moi, ça poussait là. Moi, pis tu pesais Saint-Piton.
Le lendemain, puis là, un moment donné, puis là.
Non, mais là, un moment donné, tu te rends compte que tu as besoin d'une petite grue.
Pourquoi?
Deux petites grues pour monter une petite moyenne grue. Puis que ces trois grues-là vont monter moyenne petite grande grue. Là, un moment donné, tu te ramasses avec plein de grues pour monter une grue. Puis là, dans le port, je voyais ça, mais j'ai dit, vous avez combien de petites grues? Combien vous avez besoin de grues pour monter? Et après, fait on dirait que cette journée-là, pour moi, ça a été une révélation d'un truc que je prenais pour acquis, que je me disais, c'est là, je me pose pas de questions.
Tu vois le container sur le bateau.
Je parlais, en 1300, c'était là. Il y avait des nations autochtones autour de la grue.
Était
déjà là.
Toute la chaîne de grues. Elle était prête pour le commerce moderne.
Ouais, exact.
Pour ça, je fais attention. C'est quoi ça, la grosse grue?
Mais c'est vrai aussi, puis souvent, tu sais, on dit ça, c'est que... Puis aussi, si tu le vois pas, c'est parce que ça va bien puis c'est bien fait.
Ouais.
Tu sais?
Ouais.
Tu sais, comme nous, on reçoit des produits finis,
ben,
mettons
voilà.
Juste, mettons, ta bière... Il y a du monde là, qui ont travaillé là-dessus, puis j'ai aucune idée, moi, comment canner.
C'est drôle que tu dises ça. C'était exactement ça, mot à mot, que j'allais dire. Quand j'ai vu que ça prenait une grue, puis monter une grue, puis deux grues, je me suis dit, OK, ben, derrière chaque chose, il y a quelqu'un.
Ouais.
Puis il y a une machine, mais il y a quelqu'un qui opère la machine. Des fois, il y a
une expertise. Puis...
Mais là, commencer à jouer ce jeu-là, juste pour le fun en char, là, tu regardes de quoi, là, il y a quelqu'un en quelque part qui fait ça.
Mm-hmm.
C'est sa job. Mm-hmm. Et là, c'est là que tu te rends compte de l'importance.
C'est ça. Comme dit ta grand-mère, qu'on a besoin de tout le monde.
Exactement.
Très marxiste comme podcast, j'aime ça. Je t'amène. Je vais la transformer. Hier, elle a klaxonné pour la première fois sa manifestation.
On a encouragé les éducatrices en CPE.
Voilà.
Ouais.
Hein? T'es à droite, là, je t'amène à gauche.
Oui, pour les encourager.
Ton premier pout-pout.
Oui, j'ai toujours trouvé ça gênant, je m'excuse.
Ouais.
Mais là, j'étais comme...
Parce que Steph est pour le patronat. C'est très important. Elle est toujours c'est ça, sa position.
Ben, quand t'es de patron, t'es pour le patronat, right?
Oui, pourquoi pas?
Parle-nous un peu de cette bière qu'on a... Quoi?
Juste avant,
ouais.
T'as mentionné, je sais plus comment on est arrivé là, mais on te demande beaucoup de trucs sur Instagram, puis une fois tu t'es ramassé à l'hôpital, ça se peut-tu avec quelqu'un?
Ouais, c'est que... Ah. Écoute, ouais, c'est faux. Je pense que j'ai jamais raconté ça, mais... Je pense.
Ou tu te répéteras.
Je me répéterai, mais non, je pense pas. Mais on parlait d'Instagram. C'était quoi l'angle tantôt? On disait que...
Pendant la pandémie, on a beaucoup... Avec Instagram, on a plein de demandes. Mais c'est comme... tes messages, puis on dit, hey,
même entre nous, pour se dire, viens-tu au podcast, c'est
puis des demandes du public de dire, moi, j'en ai fait beaucoup. J'essaie d'en faire le plus possible. Peux-tu souhaiter bonne fête à ma mère, à Tripsito, ça serait le fun. Envoie-moi une vidéo, c'est le 50e de mon oncle, blablabla. Puis ce qu'on disait tantôt, en fait, c'est que des fois, ces gens-là vont dire, ah, il aimerait tellement ça, mon oncle. C'est pas ton oncle, c'est toi, dans le fond, qui voudrait que je fasse une vidéo parce que tu dois m'aimer plus que ton oncle. Fait que tu te sers de ton oncle pour m'aborder, puis blablabla, ce qui est très correct. Mais ça m'a fait penser à quoi? C'est pour ça que je t'ai dit, je te raconterai si on y pense. Mais moi, pendant des années, comme plein d'artistes, j'allais à Sainte-Justine, puis tout ça, puis je m'impliquais beaucoup avec les enfants malades, blablabla. Et à un moment donné, je dis, je le nommerai pas. Je sais pas si je vais le nommer, on verra en cours de route, mais à un de mes amis qui avait jamais fait ça, ou presque, tu devrais venir avec moi, un ami humoriste très, très connu.
Pas mal
connu. Un des plus connus. Hein. Je le nommerai pas, je vais juste dire ça.
Puis il y a des cheveux, fait que c'est pas ma
c'est pas l'autre!
C'est pas l'autre! C'est pas l'autre.
J'adore ça. Fait que je dis, viens donc avec moi, ça va être cool, tout ça. Puis là, on amène des sacs, des surprises, toutes sortes d'affaires, puis c'est bien cool. Puis on rencontre, entre autres, une des jeunes qui est décédée maintenant, malheureusement, mais que j'accompagnais, mettons, on va dire ça comme ça. Fait que c'est le fun. Puis là, on fait une coupe de chambre et à un moment donné, il y a un infirmier. Lui, il est bien crinqué, là. Puis il nous aime, puis il est content. Puis il dit, là, il y en a un qui est un petit peu plus vieux dans la gang, mais qui est ici depuis longtemps, puis il s'est impliqué beaucoup à l'UQAM, puis tout ça, puis il aimerait bien ça vous voir, puis ça serait le fun. Puis là, il nous dit, il va vraiment pas bien, là. Il est très, très, très malade, il a un lourd cancer, il est dans les derniers mille, puis... Fait que moi, je fais comme, bien, certain qu'on va aller le voir, puis tout ça, puis il dit, regarde, je veux juste vous le dire, là, et il est dans ses derniers mille, c'est tough, tu sais, puis faut soyez prêts à ça. Je dis, pas de problème, je suis prêt à ça, puis mon Dieu, j'allais le nommer. Je parle à mon ami humoriste, je dis, qu'est-ce que tu penses? Ben, il dit, je sais pas, on pourrait y aller, puis tout ça, puis... Mais je dis, je trouve que l'infirmier a l'air très, très, très enjoué, tu sais, il a l'air bien content qu'on soit là, puis...
Oui.
Tu sais, le petit feeling, des fois, hein, faut écouter notre petite voix intérieure, je me dis, ça a l'air à être tenté plus que ce gars-là, parce que moi, si j'étais en fin de vie... Puis qu'on me dit que, j'ai failli dire encore, Patrick Gros et l'autre.
Oui.
On va l'appeler Louis, mettons. Et là...
Attends!
Non, dis ça de même.
Alors?
Mettons, je veux pas nécessairement passer les derniers moments ou derniers jours.
J'ai des amis et d'une famille.
Oui, là.
Exact. Mais en même temps, il revient. Écoute, oubliez pas, il y a pas juste les jeunes, il y a lui, tout ça. Parce que, tu sais, les plus petits, mettons, tout ça, il y a lui, puis tu sais, genre, regarde, on va y aller. Fait qu'on y va. Là, imaginez, là. On rentre dans la chambre, fait noir comme sur le loup. Il y a sa sœur qui est à son chevet. C'est lourd, là. Là, on s'assoit, mais nous autres, avec les plus jeunes, puis avec ma Marie-Christine, on niaise, on a du fun.
Mais oui, on donne déconne, un cadeau.
Puis, tu sais, Marie-Christine est un peu plus vieille, mais c'était le fun à mort. On donne des cadeaux. Cette journée-là, ils vont bien. Il y en a qui vont moins bien. On change de ton un peu.
Ouais.
Là, c'est autre chose, là. C'est lourd. Et on s'assoit dans la chambre. Moi, je me souviens, je suis près de lui. Là. Il est là, sa tête est là. Moi, je suis ici. Louis est à côté de moi. Et il y a sa sœur à lui. Et là, je dis « Salut, ça va bien, tout ça. » Et là, « Oui, ça va bien. » Écoute, il est pâle, il n'y a plus de cheveux, c'est presque fini, là. Et il dit « Oui. » Puis je dis « Puis comment tu te sens? » Puis tout ça, puis petite voix. Puis t'sais, Louis embarque, puis « Bien oui, ça va. » Puis tout ça. Mais les deux, on est mal à l'aise. On ne sait pas comment vivre ça, mais ouais. Il veut tellement nous voir.
Fait qu'on est là.
On est tellement important pour lui, là.
Ouais.
Et sa sœur, allô, tout ça. Puis, un moment donné, il nous dit, « Qu'est-ce que vous faites ici? » Ma première réaction, je suis en tabarnak contre l'infirmier, mais, oui, là, mais à sortir de la chambre, puis le pitcher en bas de...
C'est quoi l'affaire?
Le pommier.
Là... Petit regard. Ben, l'infirmier nous a dit que tu voulais nous voir, puis tout ça, puis. Mais vous, comme. C'est correct, puis. Mais vous, tu sais, vous êtes qui? Moi, c'est Patrick Roux. Louis.
C'est l'humoriste le populaire de la province. Ouais.
Mais ça fait longtemps quand même, je veux le préciser, mais ça fait peut-être 15 ans de ça, là, tu sais. Lui, il fait ça, puis OK, mais pas de problème. Et là, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Nous, on veut s'en aller, mais lui, le malade, nous prend pitié, puis il dit, non, mais c'est correct. Puis là, il dit, oui, merci d'être venu me voir, merci. Et là, nous, ben c'est ça. Et là, il me semble de mémoire que sa sœur arrivait de l'Ouest canadien, genre, on va dire Vancouver, il me semble que c'était ça, là, de mémoire. Puis était venu voir son frère, tout ça, dans ses derniers milles. Et moi, qui ai de la misère à gérer un silence, je dis, c'est combien d'heures, mettons, à peu près, Vancouver, Montréal? Et c'est la seule affaire qui sort de ma bouche. Et là, je regarde même pas l'autre à côté de moi parce qu'il doit faire, est-ce niaiseux? Quelle question stupide! Mais je sais pas quoi demander. Et à un moment donné, lui...
Non,
je vous le jure.
Un malaise.
Là, commence à bouger, tout ça, ça va pas bien. Tu sais, le bip, ça sonne dans la chambre. Nous autres, on panique, on sait pas trop quoi faire, on se lève, et là, ça sonne dans la chambre. Les infirmiers entrent, et là, sa sœur, oh non, puis là, tout le monde panique. Et lui est comme inconscient, là. Là, on sait pas ce qui se passe. Et on sort de la chambre en panique. Tout le monde rentre, nous pousse, tassez-vous. On se tasse, on s'en va au fond du corridor, on tourne à droite. Et on n'a jamais su ce qui est arrivé là. Alors, on est sorti, c'était fini, bye-bye, urgence. Tout le monde dehors. Fait qu'on s'est toujours demandé, est-ce que ça a fini là?
La dernière chose qu'il a entendu,
dernière chose qu'il a entendu, c'est...
question.
Ton small talk.
Mon small talk. Dernière affaire qu'il a entendu de sa vie, peut-être. C'est moi qui demande à sa sœur combien de temps Vancouver, Montréal?
Mettons,
là.
Mettons.
C'est la fin de sa vie.
Fait que, écoute, on s'est souvent reparlé de ça.
Oh my God.
On sait pas, mais
vous
ça
êtes,
a été
c'est
un
ça,
moment...
Vous êtes unis...
C'est une scène de film, là, un bon film d'humour noir un peu. Là, oui. C'est un, c'est vraiment... c'est ça. Fait que ça a été ça, mon expérience. Donc,
incroyable.
Tout pour dire que quand quelqu'un dit « Ouais, il aimerait vraiment ça », il aimerait... Non, toi, t'aimerais vraiment
ça?
Ou lui? Moi, depuis ce temps-là, là, je me méfie de ces gens-là qui disent « Non, ça y ferait vraiment plaisir. Elle me connaît-tu? » Ouais.
Oh my God!
Voilà, les amis, c'était ça. Okay.
Mais moi, je voulais aussi vraiment parler de ta bière parce que ça me fascine, parce que là, on a parlé justement de job, de job-in, de faire des affaires.
Hey, ça a tellement l'air d'un placement de produit.
Non, mais...
Vous êtes super généreux, vous êtes fin. J'ai pas arrêté de vous le dire. On n'est pas obligé. Vous amenez de la bière, vous amenez de la
plaisir.
Bière. Puis là, j'ai l'impression que je fais une info pure. C'est le job de bras.
Donc,
oui.
Non, mais
on n'est pas
ça...
comme le gars qui fait comme ouais, ouais, fait ouais. Merci.
Non, mais de zéro, là, ça me fascine pour vrai. On le disait tantôt, réaliser quelque chose, créer quelque chose. Vous avez parti ça comment? Comment vous est venue l'idée? Puis Est-ce que c'est toi qui mets la bière dans les canettes, chacune individuellement?
Chacune. Non, okay. Mais c'est entre autres ma recette.
Il est fatigué.
C'est moi qui ai beaucoup goûté à la bière okay, parce que je parfait. Savais exactement ce que je voulais qu'elle goûte avec Xavier, le maître brasseur
okay.
à la brasserie Le Bill Boquet à Saint-Hyacinthe.
Cool.
C'est avec eux qu'on fait ça. Et c'est drôle que vous avez des verres d'Hochelag.
Oui.
On va quand même parler d'eux.
Oui.
Parce que l'idée vient d'un job de bras qu'on a fait avec la distillerie Brasserie Hochelag il y a plusieurs années. Okay. Ils nous avaient fait un petit cadeau. Ils avaient mis un collant de job de bras.
Nice.
Sur une bouteille en vitre, en fait, dans le temps. Puis tout ça, on s'était dit, il me semble que c'est une bonne idée, ça, faire un jour une bière, blablabla. Ouais. Mais là, on faisait les épisodes. Et là, comme je disais tantôt, ça faisait 5 ans ouais. qu'on n'avait plus d'émissions... original.
Ouais.
Moi, j'ai fait maître du chantier. Moi, je vais toujours, quand ça va être possible, autant que possible, animer des shows qui parlent de ces gens-là. Mm. J'aime ça, je trouve ça important. Puis je
les mettre en valeur.
Fait ouais. que le maître du chantier à V, c'est un show qui était bien le fun à faire aussi. Et là, ben, on ne parlait plus de ça, ni de job de bras, ni de rien depuis un bout. Puis c'est ma blonde qui était productrice de job de bras qui a dit, tu sais, dans le temps, on jasait de tout ça. Pourquoi on ne le fait pas? Là? À peu près un an en plus... avant le confinement, avant okay. la COVID. Fait qu'on a commencé à travailler là-dessus puis monter le projet parce qu'on trouvait ça le fun. On se disait, au moins, si on n'en parle plus à la télé, on sort une bière qui s'appelle Job de bras. Job de bras, c'est aussi une marque qui est forte, une espèce de fierté
oui.
qui unit. Puis tu sais, fait qu'on s'est dit, ben
tu sais, comme on dit, ça roule encore. T'es tellement associé à ça. On sait
bon.
C'est quoi. Le nom est bon, on sait c'est quoi puis ça dit ce que ça a à dire.
Exact. Fait que tu sais, on s'est dit, ben puis tu sais, on le fait pour le fun parce que tu te lances pas. Ça peut peut-être être payant un jour, peut-être, mais il va falloir en vendre en temps. Tout le monde qui sort une bière va dire, tu le fais pour le trip. Fait que là, on y pensait, on a commencé à faire des téléphones. On a rencontré la gang du Bill Boquet. Puis là, il y a eu la pandémie. Fait que ça a fait comme, ben là, on a le temps. On a le temps d'y penser, réfléchir. On voulait pas sortir une bière pour sortir une bière. On voulait que ce soit une bière de soif parce que souvent... Ces femmes et ces hommes-là vont boire une bière désaltérante en gang à la fin, faire un toast, on a travaillé fort aujourd'hui, tu sais, la caler.
Ouais, ouais.
Fait qu'on a fait une bière à 4 %, c'est une ale facile à boire, une bière de soif qu'on appelle.
Ouais.
Tu sais, les bières comme Coors Light, Bud, tu sais, quelque chose qui est facile à boire.
Qui coule bien.
Qui coule bien. Fait qu'on a fait une bière comme ça, puis c'est vrai que je l'ai testé beaucoup. puis c'est ça, on y a goûté vraiment parce que... Puis moi, en plus, j'aime beaucoup les bières de microbrasserie, mais à 47 ans, il y en a certaines qui me ballonnent. Il y a des affaires là-dedans, il y a trop de stock, je ne sais pas ce qu'ils mettent. Je viens de vendre gros de même, j'en bois une demi puis j'ai plus de fun. Fait que je voulais pas qu'elle fasse ça, celle-là. Fait qu'on était obligé des fois, moi, quand je bois de la bière, j'en bois beaucoup. Fait qu'avec mon voisin, tout ça, on a bu 4, 5, 6.
Ouais.
Ah, petit feeling est le fun en passant. Fait que pour trouver cette bière-là. Puis avec ça, on essaie de faire des trucs originaux. À chaque fois qu'on sort un brassin ou qu'on brasse de la bière, il y a une anecdote. Fait que là, je vous ai amené une anecdote numéro 3. Fait que sur celle-là, vous pouvez les collectionner. Il y a l'anecdote de... C'est quoi je parle dans celle-là?
C'est l'Halloween.
Technicien en explosif!
Ah!
Je vous jure, c'est un hasard. C'est drôle, j'avais oublié que c'était ça. Mais bref, c'est ça.
Nice!
Puis là, on essaye de faire des affaires le fun. Comme là, il y a un code QR. Parce qu'il y a une chanson de Job de bras aussi. Fait que tu peux faire jouer ta toune. Ça, c'est la nouvelle badge d'ailleurs. La toune de Job de bras pendant que tu bois ta bière.
Let's go!
C'est cool!
Ben, on essaie de faire des affaires absurdes puis le fun de même. Avec la gang de la brasserie, le Bill Boquet, on a pogné une gang de tripeux. Tu sais, qui a envie de s'amuser...
Mais comme toi, autres, finalement, là, depuis le début, c'est ça. Là, toute l'histoire que tu nous racontes, là, c'est tu tripes
à part dans chacun cancer. De tes
projets. À part ce bout-là, j'ai trippé moins.
Il trippait moins.
Ben, il était vraiment intéressé sur le temps entre Vancouver. Il trippait sur le transport.
Oui, il trippait. 2 dodos, 3 dodos. C'est extraordinaire.
Fait que c'est ça, ce projet-là.
Ben, j'adore. On le retrouve dans certaines épiceries.
Partout. Il y a boutiquejobdebras.com. Vous allez voir, mettons, rentrez votre code postal. Okay. On a l'espèce de.
Ah oui, on dit où est-ce que.
Le logiciel. Tu vois comment je connais ça. La patente qui dit où il y en a proche de chez vous. Là.
Parfait.
Mais merci de parler de ça.
C'est
bien fin. C'est un projet bien fun pour nous autres.
Puis là, on t'écoute à la radio. T'es un gars de radio. Fait combien d'années t'en fais, là?
Ben là, j'en ai fait beaucoup.
Okay.
Là, ça faisait... Ah, ben c'est pas vrai. J'avais fait Les Fantastiques. À un moment donné, j'en ai fait beaucoup de radio un peu partout aussi.
Ouais.
Là, j'étais à C'est quoi? Au retour à C'est quoi?
Ouais.
quel bel job. C'est tellement le fun. Avec Mathieu Pepper, Corinne Côté, les trois ensemble, on a vraiment beaucoup de fun, beaucoup de plaisir. Avec les phonés, on les appelle nos phonés. Le titre, c'est « Le fun est dans le retour okay. ». Puis là, ça a l'air qu'en radio, on n'a plus le droit de dire « auditeur, auditrice ». Hey, les auditeurs, appelez-nous auditrices parce que c'est trop impersonnel.
OK.
Mais là, je dis, on les appelle comment d'abord? Vous autres, choses. Fait qu'on, toute la gang ensemble, on
la
a trouvé
gang des
le fun, funny, drôle, la gang de funny. Fait que c'est ça leur nom. Mais on a bien du fun avec... Puis tu sais, des fois, comme le trio... Moi, je connaissais bien Mathieu Pepper. On a fait des shows ensemble. Corinne, je la connais parce que je la trouve extraordinaire, je la trouve bonne, tout ça. Mais on n'a jamais travaillé les trois ensemble. On ne sait pas ce que ça va donner. Mm-hmm. Et là, on nous demande de faire un show de radio, mais ça a cliqué tout de suite. Là. Mm. Les trois ensemble, on a vraiment bien du fun. On travaille avec Pierre Fiola, je pense que tu connais aussi.
Oui, bien sûr.
Qui travaille avec nous. Guillaume Marquand, qui est une découverte pour moi. Espèce de... C'est un humoriste tête radio qui a fait l'école aussi, qui travaille sur d'autres projets, mais qui... Tu sais, ça prend une tête radio quand tu fais de la radio.
Ouais.
Fait qu'on a une belle équipe, puis on a bien du fun. Puis vous savez, c'est quoi, hein, d'avoir ça? D'avoir un micro, puis de pouvoir partager, puis avoir du fun. Puis quoi, vous avez un petit peu plus de liberté que nous, je pense.
Différent.
Un petit peu.
Comme c'est différent. Tu peux moins faire... Tu peux moins dire le mot xénophobie.
Oui.
C'est quoi? Tu peux moins faire ça. Tu peux moins traiter ta blonde de xénophobe. Mais ça, c'est une différence.
Ouais, mais ben, tant mieux.
Partir sur « Hey, il y a un gars qu'on n'aime pas à TV, rions-lui » comme ça, là. Un petit peu moins.
Mais vive la liberté, puis vive ces podcasts-là, puis de pouvoir encore avoir des endroits pour s'exprimer, puis parler de toutes sortes d'affaires.
Quelqu'un m'a déjà dit « T'intimides le monde », puis j'ai dit « Ben, appelle YouTube ».
Ouais.
Règle ça avec YouTube, monsieur. Prends pas la liberté de plus m'écouter.
Non.
Appelle YouTube, puis dis Thomas Levac au Québec. Il a dit quelque chose sur un gars que t'as jamais entendu parler que j'aime pas. Merci. C'est gentil. On va le prendre en considération.
Ah, mais comme j'ai dit, moi, je trouve que parfois c'est la job de l'humoriste de pointer même certaines choses, même certaines personnalités publiques, puis de montrer, d'atteindre. Ou d'essayer de ternir un peu le prestige de certaines choses.
De ramener le monde à terre un peu.
Tu sais,
les têtes enflées, puis le...
C'est complètement. Puis sans détruire complètement cette personne-là, mais des fois, juste faire comme...
Hey!
Bien sûr qu'on exagère, bien sûr que, tu sais, on fait de l'humour, n'est-ce pas?
L'humour. On a tendance à oublier c'est quoi l'humour, puis le deuxième degré, puis...
Oui.
Mais je parlais d'honnêteté tantôt, je reviens avec ça, parce que... Il y a de quoi qui fait du bien aussi là-dedans, puis en humour, puis dans vos propos. Puis ça aussi, c'est nécessaire à un moment donné parce qu'on se reconnaît. Tu sais, quand quelqu'un a le courage... Moi, là, j'étais... C'est drôle, je pense. Moi, j'étais le premier dans ma gang, quand j'étais jeune, à dire à mes chums que je m'étais crossé. Tu sais, fallait que j'en parle.
T'avais quel âge?
Je pense que j'avais... écoute, j'étais en septième année, fait que secondaire 13
ans. 13 ans.
12-13 ans.
Moi aussi, j'étais en 13e.
Découvert ça sur le tard, moi, parce que je savais pas, il n'y avait pas de porn, il n'y avait pas, tu sais, nous autres. Moi, je suis vraiment la génération.
Catalogue, Patrick.
Catalogue, s'il y a-tu un coin de quelque chose en quelque part, un peu de chair, un
magazine.
Puis, ouais. C'était carrément ça. Puis, à l'école, je sais pas si c'était comme ça au Québec, mais dans ce temps-là, en Ontario, à l'école, quand quelqu'un disait de quoi, il disait ah, va te crosser, va te crosser, c'était comme va chier dans le fond, mais moi, je me disais va te crosser, c'est quoi ce crosser? Tu sais, je comprenais pas. Puis à un moment donné, tu fais va te crosser.
Moi, c'est.
Là, ton corps te parle à 12-13 ans, là-dedans, je me dis OK, j'ai mis les deux ensemble, il n'y a personne qui m'a appris ça. Là.
Vous
voyez comment que c'est fort, cette affaire-là? J'ai découvert moi-même.
C'est vrai qu'on découvre ça
On dirait qu'il y a de quoi de
Le problème, c'est que quelqu'un t'apprend, là, c'est plus
ouais, ça c'est oui, gars, tu mets ta main là.
Quand un membre de ta famille te l'apprend, c'est bizarre.
C'est ça, là, ça.
C'est ça que je racontais à Michel Courtemanche.
Oui, voilà.
Mais ça, cette affaire-là, de te faire un petit mix maison, de tu sais pas trop, faut-tu que ça glisse, ça fait mal, Puis moi, la première fois que j'ai éjaculé, j'ai eu mal.
Oui, moi aussi.
Asti, c'était comme.
J'ai commencé.
Oui, parce que c'est un mal, le fun. Il y a comme quoi de weird, tu sais.
Ah, oh, ouais.
Je suis couché, je suis dans une salle de bain en haut. À chaque fois, je vois une salle de bain, là, d'ailleurs. Je me vois tout le temps couché sur le dos, un peu
tes
malhabile.
Tes parents habitent encore là?
Ben oui.
Ah, j'ai
oui, encore. Avec un mix genre shampoing.
T'as fait un espèce de
lubrifiant. Je me suis fait un
mix
de
maison.
Une affaire, je savais pas trop comment ça marchait. Je savais que ça fallait que ça glisse parce que ça me faisait mal, tu sais. Fait que là, j'ai dit, bon, ben, on va y aller de même. Fait que...
C'est juste l'éjaculation qui me faisait mal.
Mais moi aussi.
OK. Ouais. Mais tu le, veux pas
en tout cas, on pourra en parler aussi, mais tu sais, t'as tout le. Quand t'as trop frenché, le blue balls, tout ça, ça fait mal. Ça, mais ce moment-là, là, où c'est, ça voit le jour, ça, pour la première fois, moi, ça a vraiment fait mal, mais il y avait quoi en même temps de le fun. Puis la deuxième fois, j'avais peur, parce que je me suis dit, ça va-tu se faire. Parce que ça avait fait mal de même à chaque fois, oublie ça. Ça a beau être un peu le fun. Ben, en tout cas, ça dépend de ton degré de tolérance
plaisir
à la douleur.
Dans la douleur.
J'embarque dans tout ce que tu as dit. C'est le bout où. Là, je m'appelle pas.
Non,
ça fera mal.
Fait que quand je suis arrivé à l'école, moi, j'avais comme besoin de m'exprimer puis de partager. Ouais. Mais c'est gênant de dire ça. Ouais. De parler de quelque chose d'aussi intime que tu as fait tout seul chez vous, puis tu savais pas trop, puis maladroit. Puis moi, de dire. J'ai fait ça, puis dans le fond, c'est moi qui ai déviant. Si personne fait ça, ou ben non, que j'ai tu sais, on le voit que j'ai mal interprété quelque chose. Fait que ça a été long. Moi, c'est pas long. Tu sais, j'étais assez livre ouvert, fait que ça m'a pris 2-3 jours, mettons. 2-3 crocettes, puis j'ai dit, OK, fuck it. Là, c'est juste le fun. Faut que j'en parle. Ça se peut pas que je sois le seul à vivre ça dans ma gang. Faut que je propage la bonne nouvelle, tu sais. Fait qu'à l'école, je me vois encore à la cafétéria. Avec les amis, puis je leur dis ça, je dis, vous autres, là, en mangeant ma sandwich jambon moutarde, vous êtes déjà crossé. Tu sais, t'es bien de même pas fort.
Ouais, ouais, puis.
Les gars, pff, quoi, c'est crossé, tu sais. Là, ah non, je le savais, j'aurais pas dû en parler, s'il y a personne qui a fait ça. Et il y en a un autre, je me souviens, là, tout de suite, ben moi, oui. Tu sais, en voulant dire, c'est que je suis content que t'en parles. Ah, moi, oui! Il s'est attaché à moi, là.
Et il est devenu le Letty en G-string.
Ouais.
C'est lui.
C'est
intéressant. Mais oui, mais fait, oui, fait, ouais, oui, fait, vous avez discuté.
Fait que là, d'en parler, puis tout ça, puis là, les autres qui n'avaient jamais fait ça, là, tout à coup, il y en avait un qui avait déjà fait ça, il y en avait deux, il y en avait deux qui ont dit, je te jure que non, mais là, da-da-da, ça fait mal. Ça, là, tu sais, t'as une vraie conversation presque intelligente de dire, tu sais, moi, je me suis fait un mix maison... je savais pas trop quoi faire. Coucher, je me souviens de la tuile qui est frette. Que
pourquoi moi aussi, la première fois, je me suis couché? Ça a pris du temps à réaliser. Je suis pas obligé d'être couché.
Ben ouais, tu peux être assis en indien.
Voilà. Non, mais tu peux être assis, tu peux être debout. Longtemps, j'étais couché.
Ouais, complètement. Peut-être plus facile. Ou c'est peut-être ton corps qui se défend. Mettons que tu perds connaissance. Tu vas déjà être couché.
D'un coup, tout le sang.
Mais tout pour dire, je vous raconte ça parce que on parlait d'humour puis d'honnêteté puis tu sais votre podcast c'est ça, ça fait aussi, puis c'est pour ça que c'est important de faire ces affaires là puis tu sais, je t'ai envoyé un petit mot à un moment donné parce que
j'étais très touché, j'en suis
très fan pour vrai, tu sais, parce que je trouve qu'on a besoin de ça, puis dans une période en ce moment où on sait plus quoi puis quand puis de quelle façon, puis ben d'avoir cette liberté là de partager ces affaires là, c'est le fun, puis c'est plus que le fun, c'est important parce que t'entends des affaires puis tu penses que t'es différent. Puis parce que quelqu'un a eu le courage de parler de quelque chose, tu fais comme OK, phew.
Ouais.
Tu as plus l'impression de faire partie d'une gang. Puis si tu peux en rire en plus,
ouais, là, c'est ça. Mais oui, mais même l'autre jour, on a reçu un invité au podcast, puis à la fin, il était comme oh, comme j'ai tout raconté mes petits travers. Puis j'étais comme, mais justement, on en a tous des petits travers. Tu sais, en autant que ça soit des petits travers, là, c'est ça qu'on comprend. Là, quand on dit.
C'est pas j'ai bien raison qui
gagne.
Moi, j'aime ça quand il aime pas ça. C'est pas ça, là. C'est pas ça qu'on parle.
Mais c'est ça qui nous rend humains, tu sais, au final. Fait que c'est le fun, oui, de pouvoir jaser, de pouvoir aussi changer d'idée aussi.
Ouais.
Oui. Moi, longtemps, j'ai rien fait. T'sais, je m'exprimais très peu artistiquement ou même juste communiquer parce que j'avais peur. Maintenant, je préfère dire quelque chose puis me tromper, puis après ça, m'excuser ou revenir sur mes pas ou même pousser ma réflexion. Parce que comment tu veux justement faire avancer ta réflexion si tu rebondis pas sur d'autres mondes, tu sais?
Ouais. La peur du jugement, puis plein d'affaires qui partent un peu avec l'âge aussi.
Exact.
Plus tu vieillis, plus tu commences à...
Oui, oui, justement.
À te foutre un peu de
toi,
ça.
Ton ami t'a donné ce courage-là quand t'as pris le courage de dire...
Moi, oui.
Moi, oui. Je l'ai comme une petite belette. Moi, oui.
Moi, oui, je suis là.
Fait 2 ans que j'attends que quelqu'un en parle. Au dîner.
Patrick, donc, si on veut te suivre, on t'écoute à la radio. Est-ce que tu repars en spectacle là, après la pandémie?
Là, mes tournées, c'est un deuil que j'ai eu à faire parce que la tournée Grou, c'est mon quatrième one-man show. J'avais fait un an. était sur une très belle lancée, comme plein d'humoristes. Il y a eu la pandémie, tout ça. Des dates de remis. Là, je suis dans mes derniers mille. Je pense que décembre, c'est pas mal les dernières dates. Je pense qu'il me reste 11 ou 13 spectacles d'ici la fin décembre. Peut-être qu'on va en faire en production nous-mêmes ici et là, mais on ne sait pas encore. Ça se pourrait que ça se termine en décembre, fait que ça me fait bien de la peine, mais ça aurait été ça, puis ça aurait été bien le fun.
Oui, malgré.
Puis il y a un show, fait qu'il me reste des dates, patrickgros.com, si vous voulez aller voir les dates et la chance de voir ce show-là. Sinon, ben non, ça va bien, c'est le fun. Plein de projets. Ah, c'est le retour de Dans ma tête
oui!
à TVA. Je suis assez content.
À TVA ou à vrai?
Vrai.
OK.
Oui, et peut-être après ça à TVA. TVA. Fait que, oui, sur vrai. La nouvelle plateforme, d'ailleurs, qui est vraiment cool, puis je n'ai rien, ils ne me payent pas pour dire ça. Là. Mm-hmm. J'allais voir des trucs, il y a des documentaires, il y a plein d'affaires.
Il y a un documentaire sur les hold-up.
Oui.
Puis moi, je me fais hold-upper, ça me touche.
C'est vrai?
Oui.
Tu veux te s'en prendre?
Non, je vais dire sur scène, mais oui.
Mais... OK. Mais c'est ça, fait que sur vrai. Puis de retrouver les humoristes, puis de pouvoir, parce que pour ceux qui ne se souviennent pas trop, c'est on alterne entre le stand-up sur scène et la fiction.
Ouais.
Fait qu'on fait du va-et-vient comme ça. Ça a été deux saisons à TVA dans le temps.
Mm-hmm.
Fait que Dans ma tête revient, on est super contents aussi. Fait qu'on était en coproduction, nous, à Juste pour rire à l'époque. Donc, pour plein de raisons évidentes. On n'a pas refait Dans ma tête, mais là, ça revient et j'ai repris le contrôle de cette belle émission-là.
OK, cool. Ah, ouais. Ben, merveilleux. Puis ouais. Là, ça va être diffusé à l'hiver?
Je pense que ça commence là, le
avec le lancement de la plateforme.
C'est ça qui est le fun.
Okay,
c'est que tu n'as pas à attendre à l'hiver ou à l'automne.
Fait que ça va être là.
C'est les mercredis à 4h15, non?
Oui, c'est ça. Non, ça va être en quelque part sur vrai.
En quelque part sur vrai. Ben merci beaucoup, Patrick.
Merci à vous autres. Vraiment cool. Merci. Plaisir. Je sais pas comment finir ça. Santé.
Santé, ouais.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.